Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 12 février. Merci d'être avec nous dès ce matin. Je suis actuellement accompagné de Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Et également Maïlis à mon côté, Richard qui nous rejoindra dans quelques minutes pour participer à des entretiens brillants comme il sait si bien les faire. Alors aujourd'hui, une matinale particulièrement intéressante, comme chaque matin. Vous me direz, mais quand même, eh bien nous parlerons tout d'abord de l'Union européenne et de sa capacité à lutter contre l'immigration. Est-ce que c'est possible? C'est la question que nous nous poserons avec Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex. Ensuite, à 7h25, eh bien nous serons rejoints par Omera Cellier. Omera Cellier qui est présidente de l'ONG Innocence en danger et qui nous parlera de l'affaire Epstein. Est-ce que la justice va enfin bouger sur le niveau français? Puis à 8h20, nous serons rejoints par Mathias Renaud, député RN, qui évoquera eh bien, la Cour des comptes, le droit de vote des étrangers, enfin bref, les cadeaux de départ de la Macronie. Et puis à 8h57, comme tous les jeudis, chers auditeurs, ce sera eh bien, l'analyse de Jean Messia. Restez donc avec nous, il y a évidemment plein d'éléments à suivre ce matin, entre autres chroniques passionnantes. Mais tout de suite, un petit point sur l'actualité avec Maïlis Clozel.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs. Alors hier matin, 10 ans après la mort d'Adama Traoré qui a déclenché une décennie de procédures, de tensions et de manifestations antiracistes, la justice a tranché définitivement. La Cour de cassation confirme le non-lieu pour les gendarmes dans l'affaire Adama Traoré. Concrètement, cela signifie qu'il n'y aura pas de procès supplémentaire. Pour beaucoup de policiers et gendarmes, cette décision ressemble à la fin d'un long suspense vécu comme une mise en accusation permanente de racisme systémique alors que les expertises judiciaires se sont succédées sans jamais conclure à une faute pénale. Du côté de la famille Traoré, on s'acharne à vouloir demander justice pour un délinquant. Elle annonce carrément vouloir saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Affaire à suivre, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont motivés.
Oui, motivés pour nous embêter. Et puis, énième affaire qui fait froid dans le dos au sein d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance.
Bah oui, c'est peu dire, cher Alexandre. Dans la Marne, un adolescent de 14 ans a été violemment frappé par un autre mineur sous le regard d'autres jeunes qui filmaient la scène. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont conduit la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, à saisir la justice. L'agresseur présumé, âgé de 15 ans, sera jugé début mars devant le tribunal pour enfants. Il a déjà été déplacé vers un autre foyer dans l'attente d'une prise en charge pénale. Une affaire qui confirme les critiques récurrentes contre l'ASE, manque d'encadrement, violence entre mineurs et même de la part des tuteurs ou encore des structures tout à fait débordées. Au bout du compte, ce sont des enfants censés être protégés qu'ils se retrouvent souvent en danger dans des institutions pourtant financées par nos impôts pour les protéger. On marche légèrement sur la tête.
Et puis on saura au début d'été à quelle sauce le RN sera mangé par la justice.
Et oui, c'est cela. La décision est désormais attendue. Le verdict du procès en appel de Marine Le Pen et du Front National dans l'affaire des assistants parlementaires européens sera rendu le 7 juillet prochain à 13h30. Le parquet général de la justice politique réclame notamment 5 ans d'inéligibilité contre la chef de file du RN. Une sanction qui pourrait peser lourd à la proche de la présidentielle. Marine Le Pen dit espérer une décision rapide et on la comprend. Écoutons Bruno Gollnisch à notre antenne nous donner sa version des faits.
D'abord, c'est une dotation qui vous était due, non pas par une faveur du Parlement européen, mais parce que nous avions obtenu des résultats électoraux que nous devions à la confiance de nos électeurs, qui sont aussi des contribuables et qui alimentaient précisément le Parlement européen. Deuxièmement, en ce qui me concerne, par exemple, je suis poursuivi en raison de l'activité de 3 assistants dits locaux. Il faut savoir qu'il y a au Parlement européen 2 catégories d'assistants, les accrédités qui doivent résider à Strasbourg ou Bruxelles et les locaux. Alors j'ai apporté ici les documents officiels du Parlement européen, la foire aux questions, voilà, qui est distribuée aux parlementaires européens quand ils arrivent dans l'hémicycle, voilà, où travaillent les assistants locaux. Les assistants locaux travaillent dans l'État membre d'élection, ils ne peuvent être affectés dans les locaux du Parlement. Voilà, je vous donne le document, j'ai le noir sur blanc.
Merci pour cette musique épique, Maïli.
Voilà. C'était Bruno Gollnisch au micro de Ligne Droite ce mardi. Je vous invite à retrouver l'entretien complet sur notre chaîne YouTube.
Et alors maintenant, l'État veut même décider comment nous allons régaler nos papilles à l'avenir.
Et oui, et bien en plus, on est peu confiant hein, quand on le connaît, cet État. Le gouvernement vient de publier sa nouvelle feuille de route sur l'alimentation et le climat. Un texte attendu depuis plus de 2 ans qui recommande désormais de limiter la consommation de viande et de charcuterie tout en encourageant davantage celle de fruits et légumes. Officiellement, il ne s'agit pas d'interdire ni même de réduire drastiquement, mais d'orienter progressivement les habitudes alimentaires, notamment pour des raisons sanitaires et environnementales, les éleveurs apprécieront. La question de la viande importée est aussi pointée avec l'idée de privilégier davantage la production française. Tout en recommandant d'en manger moins, on demandera l'avis de Bruxelles qui montre pourtant son engouement à l'idée de signer le Mercosur.
Et puis, pour le sport, l'histoire du sport féminin est en marche.
Et oui, on ne parle pas de la République en marche de Macron, évidemment, mais plutôt d'une nouvelle réussite pour le biathlon français à Antols Interselva. Julia Simon décroche l'or, sa première médaille olympique individuelle, tandis que Lou Jean Monod arrache l'argent après une remontée spectaculaire. Une performance solide malgré une course très disputée au tir, qui confirme l'excellente dynamique de l'équipe de France, déjà riche de plusieurs médailles dans ses championnats. On leur souhaite de prolonger ce succès.
Et est-ce que la météo va nous réconforter ce matin ?
Eh bien, pas trop, je crois, puisqu'aujourd'hui, la tempête Nils traverse le sud du pays avec violentes rafales sur la côte atlantique et les plaines du Roussillon, avec localement des pointes de plus de 140 à 150 km/h. Côté température, il fait plutôt doux pour la saison, de 9 à 16, du nord au sud, 11 degrés à Paris et jusqu'à 16 à Nice. Et nous célébrons en ce 12 février Sainte-Eulalie et Saint-Félix d'Abitaine, martyrs chrétiens d'Afrique du Nord.
Eh bien, merci, Maïlis.
Ligne droite.
Et en fait, on vous retrouve mais une seconde plus tard pour le décryptage. Alors, dites-nous tout.
Bah oui, on ne se quitte plus. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, on vous parle d'une nouvelle qui ne fera que nous conforter dans l'idée que le Mozart de la finance est ô combien incompétent. La caisse d'amortissement de la quête de la dette sociale, la CADES, vient de lancer un avertissement. Il reste 122 milliards d'euros de dette sociale à rembourser. 122 milliards, c'est la dette accumulée par la sécurité sociale au fil des déficits. Et cette dette pourrait être transférée aux générations suivantes si rien ne change, le cadeau empoisonné. Pour comprendre, il faut rappeler que la CADES, créée en 1996, a pour mission de rembourser les déficits sociaux grâce à des ressources affectées, notamment la CRDS, qui n'est autre que la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui est une taxe donc destinée à financer la protection sociale. Elle est prélevée sur les revenus et est obligatoire pour tous les contribuables. Elle devait initialement disparaître une fois la dette amortie, mais depuis près de 30 ans, on prolonge son existence parce que les déficits continuent. On n'avait vraiment pas remarqué. Aujourd'hui, la CADES estime qu'elle peut absorber un nouveau transfert de 15 milliards d'euros lié au déficit récent. Mais elle alerte à la fois en même temps que sans retour durable à l'équilibre, le processus devient tout à fait intenable. Le calendrier actuel prévoit une fin en 2033. Or, si les déficits persistent au rythme de ces dernières années, cette date pourrait se voir repoussée. Autrement dit, ce qui devait être une dette temporaire devient tout à fait pérenne. Le problème est que la sécurité sociale accumule des déficits année après année. La dette est remboursée à la CADES qui emprunte sur les marchés pour rembourser. Et le remboursement repose sur des prélèvements obligatoires. Si la dette ne diminue pas, elle est simplement étalée dans le temps. 122 milliards d'euros représentent plus d'une année complète de budget de l'éducation nationale. C'est l'équivalent de plusieurs plans d'investissement massifs. Et surtout, c'est une dette qui ne correspond pas à des investissements productifs, mais à des dépenses courantes déjà consommées. La CADES parle d'un risque de bascule. Si la trajectoire financière ne s'améliore ou ne change pas, la charge pourrait être reportée sur ceux qui n'ont pas participé aux décisions aujourd'hui, soit les générations futures. La sécurité sociale ne peut pas durablement dépenser plus qu'elle ne perçoit. Mais les déficits récents se comptent en dizaines de milliards d'euros par an et à chaque crise, on ajoute une couche supplémentaire comme s'il n'y en avait pas assez. Ce que dit la CADES, c'est que le système tient encore, mais il tient sous conditions. Retour à l'équilibre, maîtrise des dépenses et stabilité des recettes. Sinon, cette dette qui devait être exceptionnelle deviendra tout à fait permanente. On appelle ça la solidarité, mais en pratique, on fait payer les suivants. Ce ne sont plus les actifs qui financent les retraités ou les malades, ce sont surtout nos enfants qui financent les déficits d'aujourd'hui. 122 milliards à rembourser, une échéance fixée à 2033, un nouveau transfert de 15 milliards déjà absorbé et des déficits qui continueront. Soit on corrige maintenant, soit on fait payer nos enfants. La dette sociale n'est donc plus un amortisseur, elle devient plutôt une facture imposée en héritage. Et une fois de plus, nous ne semblons pas avoir le choix.
Merci beaucoup Maïlys Clauzel.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien de la matinale, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri, bonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous êtes l'ancien patron de l'agence européenne Frontex. Vous êtes aussi eh bien, député européen du Rassemblement National et vous êtes finalement un des monsieur frontières de ce parti. Alors, la question qu'on se va poser, c'est est-ce que l'Union européenne peut lutter contre l'immigration ? Et deux textes ont été adoptés hier qui vont plutôt dans le sens de cette démonstration. Alors, ce sont des textes qui permettent notamment de renvoyer des migrants vers des pays sûrs et de considérer à l'échelon européen des pays comme sûrs. Comment est-ce que ça s'est organisé déjà le vote de ces textes ?
Je crois que la maîtrise des frontières et la maîtrise de l'immigration, notamment l'immigration illégale, est une question de volonté politique et de poids politique. Le Rassemblement national est arrivé largement en tête en France et nos alliés qui sont dans les autres pays de l'Union européenne, je dirais, sur les mêmes opinions que nous par rapport à l'immigration notamment, ont fait également d'excellents scores. Le résultat, c'est que nous sommes au Rassemblement national dans le premier groupe d'opposition au Parlement européen, le groupe des Patriotes pour l'Europe, et au total, si on additionne d'autres groupes qui sont, qui partagent avec nous des positions eurosceptiques et hostiles à cette immigration, eh bien, nous avons à peu près un tiers du Parlement européen qui est prêt à voter spontanément des dispositions pour arrêter cette immigration illégale. Si vous ajoutez également le fait que la droite, je dirais classique, le centre-droit, je prends l'exemple des chrétiens démocrates en Allemagne, sont eux aussi sous pression de leurs électeurs, chacun dans son pays de l'Union européenne, nous arrivons à la possibilité au Parlement européen de faire une majorité alternative. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait en tant que coordinateur du groupe des Patriotes pour rallier, si vous voulez, une majorité, on va dire, en format union des droites au Parlement européen pour finalement commencer à détricoter ce pacte asile-migration contre lequel le Rassemblement national a voté. Et ça, c'était dans le mandat précédent, avant les élections européennes, parce que Mme von der Leyen et la Commission européenne précédente avaient voulu faire voter cela un peu en catimini avant les élections. Donc oui, nous avons commencé à détricoter le pacte, mais il y a encore du travail.
Alors justement, c'est la question qui se pose un peu, c'est qu'on a entendu parler pendant plusieurs années du pacte des migrations, du plan de répartition des migrants, auquel je rappelle que je crois 6 pays européens ont réussi à échapper, mais il y a ce pacte des migrations, et en parallèle, eh bien, des textes qui sont votés, et qui permettent pour le coup de restreindre théoriquement de manière efficace, s'ils sont appliqués en tout cas, l'immigration. Alors, le premier texte considère que eh bien, l'Union européenne peut renvoyer des migrants vers les pays des pays qui seraient considérés comme sûrs, et le second texte crée une base européenne commune de pays sûrs, et donc parmi lesquels on retrouve le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Maroc, la Tunisie, et donc avec tous ces pays-là, eh bien, on pourra y renvoyer les migrants et puis les demandeurs d'asile ne seront plus considérés officiellement, enfin directement, pardon, comme pouvant avoir droit à l'asile, c'est-à-dire que leur demande sera étudiée en amont. Comment est-ce que, déjà, pourquoi avoir fait voter ces textes alors même que le pacte des migrations va quand même s'appliquer en parallèle?
Alors, le premier texte qui porte donc sur ce qu'on appelle le concept de pays tiers sûr, comme vous l'avez dit, va permettre de refuser d'enregistrer des demandes d'asile dans les États de l'Union européenne et permettra de notifier à des migrants demandeurs d'asile qu'ils peuvent aller dans d'autres pays qui sont en dehors de l'Union européenne et qui ne présentent aucun danger pour eux, compte tenu de leur situation personnelle et compte tenu du gouvernement de ces pays hors de l'Union européenne. Concrètement, il y aura plusieurs cas de figure de pays qu'on appelle donc pays tiers sûrs. Il y aura tout d'abord la possibilité de renvoyer lorsqu'il y a un lien, on le dit le jargon bruxellois, de connexion, c'est-à-dire que la personne, par exemple, que nous allons renvoyer, parle la langue du pays non européen dans lequel nous la renvoyons, ou bien elle a une partie de sa famille qui est là-bas, ou bien elle a peut-être travaillé, vécu à un moment donné. Il y a un autre critère qui est celui du transit, c'est que la personne a considéré que ce pays non européen vers lequel nous voulons la renvoyer n'était pas un danger puisque cette personne a traversé lors de son périple vers l'Europe, a traversé ce pays. Donc, nous la renvoyons vers un pays de transit. Ça peut être tout simplement d'être passé par un des aéroports, même dans la zone de transit aéroportuaire. Et à ce moment-là, sans autre, je dirais, forme de procédure, nous renvoyons cette personne vers le transit. Et puis, il y a la possibilité de négocier, de conclure des accords avec certains, avec des pays tiers hors de l'Union européenne, qui accepteront soit de conclure avec l'Union européenne en tant que telle, soit, et nous avons vraiment insisté pour que ce soit aussi possible avec nos États membres, de manière à ce que des États de l'Union européenne, isolément ou en groupe, puissent conclure avec des pays non européens un accord pour renvoyer les demandeurs d'asile dans ce pays-là, avec pour nous évidemment l'objectif à terme d'avoir des centres de migrants et des centres de retour. C'est un petit peu le modèle que Mme Meloni en Italie a voulu établir avec l'Albanie. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, vous l'avez évoqué, c'est la liste des pays d'origine sûrs. Vous avez donné la liste, il y a l'Égypte, il y a le Kosovo, il y a le Bangladesh. Et d'autres encore. Et là, ça veut dire que quelqu'un qui vient de ces pays, qui nous prétendrait être en danger de persécution politique dans son pays, devrait apporter la preuve qu'en fait, il est en danger. Alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas de présomption que des pays hors d'Europe étaient sûrs. Et là, la présomption générale, grâce à ce texte que nous avons voté il y a deux jours, la présomption est que quand vous venez de ces pays-là, l'Égypte, le Bangladesh, le Kosovo et d'autres, eh bien, vous êtes considéré comme n'étant pas en danger quand vous rentrez dans votre propre pays. Et ce qui est également très important, c'est que nous avons mis dans ces textes le fait que si un migrant veut demander l'asile et fait un recours contre la décision de le renvoyer hors de l'Union européenne, le recours ne sera pas suspensif. Ça veut dire que même s'ils font un recours avec des ONG, avec des avocats, ils devront partir. Ils n'auront pas le droit de rester. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit permettre de réduire le nombre de demandeurs d'asile qui sont inscrits dans l'Union européenne. Et donc, ça doit mécaniquement faire baisser le nombre de demandeurs d'asile qui entreront dans le mécanisme du pacte asile-migration et donc qui entreront dans cette redistribution obligatoire que nous combattons et qui, pour le moment, effectivement, existe et s'appliquera à partir de juin 2026. Et donc, nous allons ainsi, c'est ce que nous voulons faire, assécher si vous voulez, le nombre de ces migrants qui vont entrer pour faire une demande d'asile et qui vont être redistribués obligatoirement entre les États.
Si je comprends bien, il y aura moins de répartition parce qu'il y aura moins, en tout cas vous visez moins de répartition par moins d'immigration à la source, c'est ça que vous décrivez.
C'est exactement cela. Ce que nous allons faire, nous, en tant que Rassemblement National, c'est évidemment être extrêmement vigilant sur la bonne application de ces nouveaux textes européens que nous avons votés il y a deux jours. Nous entendons que le gouvernement français, d'ailleurs le gouvernement français est très isolé, Le gouvernement français, si vous voulez, à Bruxelles, il fait partie des rares gouvernements qui sont pour favoriser toujours plus d'immigration, toujours plus de migrants. Je dirais que les gouvernements de M. Macron sont plus proches du gouvernement socialiste et d'extrême-gauche d'Espagnol, de Pedro Sanchez, qui, eux, veulent régulariser un demi-million de clandestins.
Oui, alors, mais c'est ça, pardon, excusez-moi Fabrice Leggeri, mais ça, c'est un point qui est quand même essentiel et sur lequel nos auditeurs se posent beaucoup de questions. Ils disent, bah oui, mais en fait, le Rassemblement National propose de lutter contre l'immigration à l'échelle européenne. Donc, finalement, en faisant passer des textes qui sont, on n'en doute pas, efficaces, comme celui que vous venez de faire passer donc, il y a deux jours. Mais en parallèle, à quoi bon ces textes si l'Espagne, qui est dans l'espace Schengen, régularise unilatéralement un demi-million de clandestins, et si la Commission européenne, qui plus est, ne vous avantage pas particulièrement dans le vote de ces textes?
Alors, la Commission européenne, dans le vote de ces textes, elle a été contrainte, parce que la Commission, le commissaire européen chargé des questions migratoires et de sécurité intérieure, a changé, ce n'est plus la gauchiste suédoise qui d'ailleurs avait fait en sorte que je quitte mes fonctions comme agence à la tête de l'agence de garde-frontières et de garde-côtes, parce que moi je voulais garder les frontières contre l'immigration et qu'elle voulait faire entrer les migrants. Bon, le nouveau commissaire européen, Monsieur Brunner, est du centre droit, il est du PPE, donc lui il a proposé, il a entendu que les peuples européens ne veulent plus d'immigration, que la plupart des gouvernements, à l'exception du gouvernement français et du gouvernement espagnol, la plupart des gouvernements sont généralement pour un tour de vis par rapport à toute cette immigration, et il a proposé des textes qui, disons, nous permettaient ensuite au Parlement d'amender pour le rendre encore plus sévère. Et si vous voulez, moi, l'inquiétude que j'ai maintenant, c'est tant que Emmanuel Macron sera président de la République et que nous aurons le gouvernement actuel ou un autre gouvernement nommé par Emmanuel Macron et de cette minorité-majorité macroniste, eh bien, nous risquons d'avoir en France un refus d'appliquer ces textes. Et vous avez raison de dire que nous avons au Sud l'Espagne, avec un gouvernement socialiste et d'extrême-gauche qui régularise un demi-million de migrants clandestins. Et donc, face à cela, il faudra de la fermeté du gouvernement français pour surveiller efficacement la frontière franco-espagnole tant que nous n'aurons pas, du côté espagnol, un gouvernement raisonnable qui sera gouverné finalement plus à droite et je l'espère, avec nos alliés de Vox qui font partie du groupe du Rassemblement National à Bruxelles et Strasbourg et qui, eux, atteignent aujourd'hui près de 20% des voix. Donc, d'autres coalitions sont possibles aussi en Espagne. Et mon message, c'est de dire que les peuples d'Europe se sont réveillés. Les gouvernements européens sont tous sous pression dans chacune des capitales et Bruxelles et Strasbourg sont évidemment sous le regard vigilant, exigeant et sous le poids politique que nous représentons avec tous nos alliés.
Et alors, dernière question rapide en une minute, Fabrice Leggeri. Est-ce que, avec ces deux nouveaux textes qui ont été votés avant-hier, la France pourra externaliser donc le traitement du droit d'asile en dehors de ses frontières? Est-ce que ce sera possible de faire en sorte qu'on ne doive pas accueillir les migrants d'abord sur le sol français et ensuite évaluer si oui ou non ils ont droit à l'asile?
La situation paradoxale, c'est que ce sera possible en vertu du droit de l'Union européenne que nous venons de modifier au Parlement européen, mais les représentants du gouvernement français nous disent que la Constitution française actuellement ne le permet pas. Donc moi, je voudrais dire que dès que le Rassemblement national sera aux responsabilités en France, nous organiserons un référendum pour modifier la Constitution française afin de rapatrier dans les principes constitutionnels français le fait que c'est la France qui est maître de sa politique migratoire, et en particulier s'il y a des éléments qu'il faut modifier dans la Constitution française pour que nous puissions externaliser, comme vous dites, les demandes d'asile en dehors de la France et en dehors de l'Europe, eh bien, nous modifierons la Constitution sur ce point également. Donc, le Rassemblement national, c'est la solution avec ses alliés, et le Rassemblement national, c'est la solution aujourd'hui à court terme à Bruxelles et Strasbourg, et demain en 2027 à Paris également.
À ce moment-là, un dernier élément pour bien clarifier, en l'occurrence, ce que vous dites, c'est que là, le droit donc européen est devenu plus restrictif que le droit français en matière d'immigration, parce que les peuples d'Europe, finalement, se réveillent plus vite que la France elle-même.
Oui, parce que la France d'Emmanuel Macron est gouvernée contre la volonté des Français. Nous l'avons vu en 2024, nous le voyons chaque jour. Emmanuel Macron continue de procéder à des nominations, de faire une politique qui n'est pas celle à laquelle aspirent les Français. Les Français répondent dans des sondages à plus de 70% qu'il y a trop d'immigration en France, et particulièrement trop d'immigration illégale. 70%, c'est bien au-delà des scores qu'a fait le Rassemblement national aux élections européennes. Donc ça veut dire qu'il y a un consensus qui est très largement partagé parmi tout le spectre, ou une très grande partie du spectre, si je mets à l'écart l'extrême gauche qui veut faire venir des migrants pour transformer la France et faire une France créolisée qui ne serait plus la France. Mais à part cela, 70% des Français veulent lutter contre l'immigration illégale. Le Rassemblement national le fera.
Eh bien, merci beaucoup Fabrice Leggeri d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin pour nous expliquer tout cela. Et puis on vous dit sans doute à bientôt si de tels textes aussi positifs passent à l'avenir. Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 7h26 et nous sommes dans une situation quelque peu chaotique car notre invité, Omera Cellier, finalement n'est pas là ce matin, si j'ai bien compris.
Et vous avez parfaitement compris, Alexandre.
Voilà, et c'est voilà. Quelque chose
Elle a annulé hier soir, à 1h évidemment, où nous n'étions pas en train de lire nos mails.
Voilà, exactement, parce que évidemment, vous savez, nous nous levons bien trop tôt pour toutes ces bêtises. Bien, chers auditeurs, en tout cas, sachez qu'à 7h50 ou peut-être un peu avant aura lieu la chronique d'Arthur de Vatrigan et que, eh bien, on va quand même parler un petit peu de cette affaire Epstein comme prévu parce qu'on ne veut pas non plus vous décevoir. On va passer au grand entretien.
Ligne droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous recevons Richard de Cesse, qui devait à l'origine animer cet entretien avec moi, mais étant donné qu'il est globalement doté de la science infuse, eh bien, nous allons essayer de nous en servir ce matin. Alors,
ça ne marche pas exactement comme ça, mais j'attends avec impatience votre rebond.
Bon, eh bien, mon rebond, c'est que nous devions parler quand même des ramifications de l'affaire Epstein en France.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'association Innocence en danger, fondée par Omaira Cellier, donc qui est une ONG fondée au siècle dernier, était très moteur sur cette affaire Epstein. En fait, en 2019, elle a fait partie de celle qui était le plus acharné à ce qu'il y ait un volet français qui soit ouvert et que on puisse, notamment avec l'arrestation et la mise en examen de Brunel, donc cet agent de mannequin qui était vraisemblablement l'un des fournisseurs de chair fraîche d'Epstein, l'association Innocence en danger avait vraiment été moteur dans l'ouverture de l'enquête française. Or, comme vous le savez, l'affaire Brunel a été brusquement arrêtée en 2020 au moment du suicide en prison de Monsieur Brunel. Il avait été incarcéré, relâché, réincarcéré, relâché, incarcéré une troisième fois. Et Brunel se suicide et la justice française décide du coup de clore l'enquête puisque, étant donné que Brunel n'était pas responsable, que Brunel n'était plus justiciable, ou plutôt il dépendait désormais d'une autre justice, la justice française décide de clore le dossier. Or, ce qu'on a appris depuis quelques jours, c'est d'une part que la justice française possède depuis 6 ans l'ordinateur d'Epstein et depuis le début de cette affaire, depuis le moment où l'appartement de l'avenue Foch a été perquisitionné par la police, il y a donc une masse de renseignements numériques considérables qui n'ont pas encore été exploités.
Alors voilà, j'ai ça sous les yeux, 2 ordinateurs Mac, plusieurs supports USB, des documents relatifs à Ghislaine Maxwell et puis évidemment à l'intérieur d'ailleurs des nombreuses photographies de femmes jeunes, voire très jeunes, en partie ou totalement dévêtues. Donc c'est quelque chose qui est même, voilà, un CD-ROM aussi qui contient une liste de noms féminines. Et puis 4500 courriels faisant référence à Jean-Luc Brunel. Donc tout ça, c'est une masse d'informations dont disposait la justice française. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que, si je comprends bien, là-dessus, il n'y a pas d'omerta de la justice française, dans le sens où l'affaire Epstein se déroule en parallèle aux États-Unis et qu'il y a eu une demande de collaboration entre les services américains et français.
Alors tout à fait. Ce qu'il y a de terriblement surprenant, c'est par exemple les déclarations du camarade Darmanin. Puisque Darmanin a expliqué que... le parquet, j'espère, puisque c'est ma volonté, ouvrira une enquête s'il y a une plainte qui est déposée. C'est-à-dire que la justice française, dont on sait à quel point elle est capable de s'auto-saisir, on l'a vu avec François Fillon, voilà, à qui on ne reprochait pas un trafic de chair humaine et de la pédophilie, mais juste de s'être fait offert un costard. Eh bien, la justice française s'auto-saisit, et là, Darmanin nous explique, mais bien sûr, qui sommes-nous pour questionner la manière dont la justice française est rendue et les arcanes techniques de cette justice, qu'il y aura enquête si une plainte est déposée. En fait, si la justice française a envie d'exploiter la masse de données considérable qui est dans les mains d'elle-même, dans ses propres mains, elle peut le faire. Il n'y a pas besoin de déposer une plainte pour, une fois qu'on est rentré chez un pédophile avéré, qu'on a chopé chez l'un des proxénètes qu'il fournissait un ensemble de documents considérables, c'est pas compliqué d'aller enquêter. Eh bien, pour le moment, voilà, le Darmanin dixit, on ne peut pas le faire. Et là, Omaira Asselier avait d'ailleurs souligné à quel point la déclaration du président Macron expliquant que c'est une affaire américaine était évidemment aberrante au regard du volet Brunel.
Oui, et puis même on pourrait élargir en disant au regard du volet européen et même mondial qu'a cette affaire. Alors je rappelle quand même,
c'est vrai que Macron a tendance à avoir à être très délicat puisque c'est son pote Keir Starmer qui de l'autre côté de la Manche a les doigts dans le pot. Donc
alors lui pas directement, mais son directeur de cabinet dont il était très proche.
Son directeur
tout
de cabinet, l'ambassadeur aux États-Unis qu'il avait nommé.
Alors pas l'ambassadeur, je crois que c'est un attaché de l'ambassadeur encore une fois, parce que l'ambassadeur, il me semble que c'est Gérard Haro qui lui pour le coup n'est pas dans l'affaire. Il me semble que c'est son collaborateur qui lui avait...
Enfin bref. Écoutez, à l'idée de savoir qu'il y avait des Anglais, vicieux qui avaient été envoyés de l'autre côté de la Manche, je trouvais ça super vraisemblable.
Richard, Anglais vicieux, c'est insupportable. Ce qu'on apprend aussi dans l'enquête qui a été sortie par France Info, publiée par France Info hier, c'est aussi que Jeffrey Epstein se servait de son appartement parisien pour tisser une toile dans absolument toute l'Europe. Et il n'y avait pas seulement des histoires de jeunes filles avec Jean-Éric Brunel. Il y avait également, il aurait tenté de rencontrer DSK, il aurait rencontré des personnalités comme Michel Hazanavicius, comme Cédric Villani, enfin tout un réseau absolument, et même par exemple un émir qatari, je crois, enfin un réseau absolument démentiel. Tout ça à Paris, où il tissait une toile, et la France est visiblement est décrite comme étant le centre névralgique de sa création de réseau européen, et on est toujours 7 ans plus tard, 6 ans et demi plus tard, sans aucun début d'enquête, effectivement.
Mais oui, parce que, comme le dit très bien le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, il faut qu'une plainte soit déposée. Il n'y a absolument pas nécessité qu'il y ait un véritable scandale. Il n'y a absolument pas nécessité qu'on se rende compte qu'un pédophile condamné soit en train de prendre langue avec les membres du cabinet de Sarkozy, des membres du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est-à-dire, en même temps qu'on nous dit, bien sûr, il faut que Jack Lang démissionne de l'Institut du Monde Arabe, en même temps qu'on nous dit que le diplomate qui était en congé pour convenance personnelle, autrement dit qui avait basculé dans le privé pour s'occuper des affaires d'Engie et sur la sellette, en même temps que Jean-Noël Barrot nous explique qu'il est très inquiet, et bien en même temps que on est en train d'expliquer, comme partout ailleurs dans le monde, qu'en fait c'est quand même un peu gênant qu'un pédophile soit devenu un fournisseur de relations internationales, y compris de relations françaises, et bien évidemment les plaintes n'ayant pas été déposées, et la justice étant très rigoureuse en matière de dépôt de plainte et étant incapable de s'autosaisir, eh bien, alors qu'on peut très bien mobiliser l'article 40, comme l'ont fait certains d'ailleurs. Autrement dit, l'article 40, c'est celui qui permet à n'importe quel représentant fonctionnaire de dénoncer une situation qui lui paraît ne pas être conforme au droit. Et eh bien, voilà, ça patine et Emmanuel Macron, donc au mépris de la simple évidence que c'est une affaire mondiale et pas strictement américaine, et au mépris en fait de tout le volet français qu'il connaît forcément. Mmh. Voilà, une fois plus, c'est en 2010. Ça commence en 2019 et c'est pas parce que quelqu'un se suicide en prison en 2022 que brusquement tout s'arrête. Eh bien, persiste à expliquer que c'est une affaire strictement américaine. Donc, on espère que entre Jack Lang et les autres personnes qui peu à peu sont souillées par cette affaire, on va pouvoir faire la vérité. Je voudrais qu'on distingue quand même deux choses. Le fait que Michel Hazanavicius se retrouve en contact avec Jeffrey Epstein à un moment donné, très bien, après tout, que des financiers aux affaires pas très propres prennent contact avec des scientifiques, des hommes de culture, des hommes d'affaires, voilà, oui. Depuis que le monde est monde, ça existe, et je suppose qu'à la cour d'Assurbanipal, ça devait pas aller beaucoup mieux. De là à expliquer, évidemment, que le simple fait d'apparaître dans les dossiers Epstein, on est forcément coupable, il y a une distance. Oui.
Ça, c'est une vraie nuance pour le coup à apporter. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs millions de fichiers qui ont été publiés, enfin de mails. En l'occurrence, des centaines de milliers de personnes sont, des dizaines de milliers de personnes au moins sont mentionnées dedans. Être mentionné dans les fichiers Epstein ne signifie absolument pas culpabilité. Et puis, voilà, Richard, je voudrais revenir aussi à ce que vous disiez au niveau du gouvernement en expliquant que, eh bien, je vous rassure, parce que Maud Bréjon a appelé ce mercredi les femmes qui auraient été victimes dans les affaires liées au dossier Epstein à parler et se tourner vers la justice.
Eh ben voilà, Gérald Darmanin va certainement être enseveli sous une avalanche de plaintes, ou au contraire, et bizarrement, il n'y aura pas de plainte, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans les histoires de mœurs et de pédophilie qui mettent en scène les puissants ou qui impliquent les puissants, eh bien les victimes souvent se taisent.
C'est rare. C'est rare qu'elles parlent. C'est sans doute par pudeur. Mais merci Richard, et nous sommes rejoints par Arthur de Vatrigan qui a accepté de venir un petit peu plus tôt avec nous. Arthur, est-ce que vous voulez directement peut-être commenter un petit peu aussi les ramifications de l'affaire Epstein en France? Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, justement, ce dont nous parlions à l'instant?
Il y a Marianne qui a fait un dossier très intéressant, le journal Marianne, l'hebdomadaire Marianne, et notamment qui a levé un petit lièvre, en tout cas quelque chose qui était passé un peu inaperçu, c'est d'où viennent toutes les infos qui sortent. Et en fait, donc, ce qu'il révèle, c'est que ça vient à la suite de la perquisition en France, donc en 2019, de la justice française avec la collaboration américaine. Et donc, il y a toujours la question de qu'est-ce qu'ils ont foutu depuis 6 ans. Mais surtout, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des échanges que d'une seule boîte mail, une boîte mail Gmail. Disons qu'on peut penser que même tout puissant qu'il se sente, Jeffrey Epstein n'aurait probablement pas qu'une seule boîte mail et n'aurait pas échangé uniquement par cette boîte mail. Et donc, on n'aurait qu'une partie des affaires et surtout qu'un point de vue des affaires. Et je me dis, il y a quelque chose à creuser d'intéressant, parce qu'on se concentre tous, que ce soit des journalistes français, des journalistes américains, norvégiens, anglais, sur une boîte mail qui serait a priori qu'un aperçu ou qu'une petite partie de l'iceberg qui émergeait. Mmh. Donc c'est assez intéressant.
Sans oublier qu'il me semble qu'environ 40% des fichiers n'ont pas non plus été publiés. Et alors apparemment, certains fichiers qui ont été déclassifiés récemment par l'administration Trump seraient en train de disparaître de la base de données pour des raisons passablement mystérieuses.
Il échappe à tout le monde.
Oui.
Vous voulez parler des dossiers aussi de Jack Lang qui sont ressortis, qui sortent des files, comme on dit, des fichiers mis à disposition partout de tout le monde?
Eh ben, oui, parlez-nous de Jack Lang, Arthur de Vatrigan. Je crois que vous l'appréciez assez particulièrement, d'ailleurs.
Ben, faut vous parler de Jack Lang parce que je voulais en faire une chronique, et non pas parce que je voulais taper sur l'ambulance ou plutôt sur la momie, mais disons que je m'étais dit on va arrêter de flatter mes bas instincts, je ne parlerai plus de Jack Lang, Et là, malheureusement, il m'arrive d'écouter deux radios le matin, Radio Courtoisie, Ligne Droite et France Inter. Et sur quoi je tombe? Mon copain Patrick Cohen. Et alors là, il sort une pépite. Il a sorti une chronique extraordinaire. Alors, je le cite quand même, parce qu'il faut le citer, ce qui est assez amusant. Alors, il parle de Jack Lang. L'homme et son œuvre ne méritaient pas une sortie aussi piteuse. Ça commence bien. Il a été le plus grand ministre de la Culture de la Ve République, le plus ardent, le plus audacieux, le plus créatif, avec un bilan inégalé dans tous les secteurs de la vie culturelle, en sauvant le cinéma français, avec le prix unique du livre, en libérant les ondes, en développant l'enseignement artistique, en inventant la fête de la musique et les journaux du patrimoine, et j'en passe. Aucun autre ministre n'a aussi imprimé sa marque, autant imprimé sa marque, et aucun autre n'a été aussi vilipendé avec une telle hargne. Alors là, je vous dis... encore un peu, et Patoche faisait rentrer la momie de son vivant au Panthéon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même se rappeler d'où il parle, le camarade Patrick Cohen. Et ça, il faut relire juste le débat. Quoi, le débat? La conversation diamétralement opposée avec Mathieu Bocoté dans le Figaro, il y a quelques temps, où Patrick Cohen rappelle « Pour ma part, je ne suis ni dans la fabrique d'opinion, ni dans la fabrique des idées, mais dans la production d'informations ». Comme cet édito hommage à Patrick Cohen, à Jack Lang le prouve. Alors, bon, si vous voulez, on peut garder deux, trois trucs positifs, c'est vrai. Les prix uniques du livre, on est d'accord. Et les journées du patrimoine à 70%, ok. Mais si on passe sur le reste, c'est quand même compliqué de donner raison à Patrick Cohen, quoi. Parce que, alors, déjà, il commence par affirmer aucun autre n'a été vilipendé avec une telle hargne. Alors, on se demande bien par qui, quoi. Et je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes le 18 janvier 2021 sur Europe 1, et sur Europe 1 officie déjà la Sonia Mabrouk, décidément quand même très courageuse, et qui interroge Jack Lang et qui ose aborder les sujets jusqu'à présent écartés dès que Jack, comme on l'appelle, s'approche d'un micro. Parce que contrairement à ce qu'ose affirmer Patrick Cohen, Jack Lang a bénéficié d'une mansuétude qui était aussi grande que le lynchage qui va arriver. Par exemple, on a vu Ségolène Royal se fendre d'un tweet mémorable, je cite « Ce spectacle d'impunité insolent des puissants qui n'ont rien vu, rien entendu, alors qu'ils ont écrit le contraire dans des mails, cette fascination pour l'argent, y compris celui d'un criminel, cet abus d'utilisation de fonctions publiques pour faire du relationnel juteux, cette indifférence devant la pédocriminalité, tout cela écœure, porte gravement atteinte à la probité et mine ce qui reste de confiance dans les responsables publics. »
Merci Ségolène.
Je te rappelle qu'en fait, en 2007, Jack Lang, il avait été nommé par Sego conseiller spécial pour sa campagne.
Aïe.
Mais bon, passons. Donc là, on va avoir ils vont ouvrir le capot, et puis alors, tous les gauchistes vont se mettre dessus pour l'allumer, faire un feu de joie géant en espérant que la fumée cache sous leurs méfaits. Mais on revient à la fameuse interview de Jack par Sonia Mabrouk ce 18 janvier 2021. Parce que honnêtement, c'est la première fois que je vois Jack se faire attaquer par la presse. Alors peut-être qu'il y avait... des passants qui l'attaquaient, peut-être que sur les réseaux sociaux, on soulevait deux, trois choses, mais globalement, dans la presse dite de grand chemin, il était tout le temps épargné. Et là, tout y passe. Je rappelle qu'à cette époque, on est en pleine affaire Olivier Duhamel. Et donc là, il y a tout qui va, les relations avec Duhamel, sa tribune pour décriminaliser la pédophilie, et déjà ses liens avec Epstein. Et donc Jack Lang est surpris, et donc il se fasse tout rouge. Et sur Duhamel, alors là, il répond, je cite, « Je vis en dehors de tout ça. Je ne participe pas à des mondanités qui me sont complètement étrangères. C'est entre-soi culturel. » Alors, l'aplomb de ces gens m'étonnera toujours. Sur Epstein, il dit « Vous faites un mélange et un amalgame. » Enfin, là, l'amalgame, ça amalgame vachement bien depuis quelques semaines, quand même. Sur sa tribune, alors là, c'est un peu compliqué. La tribune de 77, vous savez, pour défendre la pédophilie.
Oui.
Et là, il ne peut pas trop se dédire ni se défendre. Alors, il dit « C'était il y a plus de 40 ans, une autre époque. On a écrit une connerie et basta. » Donc une autre époque. Comme si dans une seule famille française, depuis que l'aube apparaît chaque matin, la pédophilie, c'est quelque chose qui est envisageable. La pédophilie est quelque chose qui peut être considéré comme normal ou comme une option possible. Et basta, c'est voilà comment il conclut, il balaye d'une main les enfants handicapés du choral et tous les autres. Voilà ce qu'on fait quand on s'appelle la langue. Et il conclut en disant « Les rumeurs me laissent de glace ». Ça, c'est sûr qu'entre la momification et le glaçage, il va mal finir, mais... Donc, ce qui est vrai, il a échappé à toute condamnation, jusqu'à présent. Mais les rumeurs ne se taisent pas, et de toute façon, dans les hautes sphères, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, même quand on est condamné pour des crimes de pédocriminalité, on peut quand même rester en place si on n'est pas mis au banc. Mais le problème, c'est que Jack Lang, il n'a pas de chance, quoi. Parce que dès qu'il y a une sale histoire qui sort, son nom apparaît, comme par magie. C'est-à-dire, la guine le pourchasse, C'est comme un pouls sur des cheveux. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, ils ont la poisse. Voilà, affaire du Corral, Jack Lang. Marrakech, Jack Lang. L'affaire de l'école de danse à Cannes, Jack Lang. Et le problème, c'est quand on se croit intouchable, bah, ce qui sort, généralement, c'est qu'un petit aperçu de l'œuvre qui va arriver. Donc le jour où il partira à la compta, il partira peut-être innocent des rumeurs qui planent au-dessus de sa tête, mais le bilan va être lourd d'autres casseroles. D'abord des casseroles financières, donc là on voit que la justice se met en branle, on peut se rappeler se consoler en disant qu'Al Capone est tombé pour fraude fiscale, donc il s'est accroché à son strapontin l'Institut du Monde Arabe qu'Emmanuel Macron, je le rappelle, lui avait obtenu une rallonge, mais là bon, il a pu démissionner. Bon, à 3 mois de la fin de son contrat, quand même. Et puis, il y a toutes ces affaires avec sa fille, tout ça. Là, bon, bref.
Oui, alors, non, attendez, Arthur de Vatrigan, là-dessus, si je comprends bien, il déclare n'avoir jamais été ami avec Epstein, mais a reçu 1,5 million sur un compte offshore, à la création d'un compte offshore, pour y avoir 1,5 million. Et sa fille, Caroline Lang, a reçu 5 millions. Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est normal.
Mais c'est pour acheter des œuvres d'art.
Voilà, c'est juste pour ça, parce que je rappelle, d'après Patrick Cohen, c'est quand même le grand ministre, le plus grand ministre de la culture de la 5e, le plus ardent, le plus audacieux, le plus créatif. Donc évidemment, vous appelez Epstein et pas Epstein comme on dit, parce que sinon, dans ces cas-là, j'ai appelé Frankenstein et pas Frankenstein. Et bien, dans ces cas-là, évidemment, bah, on file tout son blé à Jack Lang, parce que lui, il connaît l'art, il sait ce que c'est, il a bon goût, il a l'œil pour connaître les pépites. Donc moi, les 5 millions, je les comprends très bien. Bref, il est quand même mal barré, parce que le problème, c'est qu'il n'a pas déclaré tout ça. Donc, il va avoir les casseroles financières. Et puis, les casseroles politiques. Malheureusement, je suis bien déçu de le faire, mais je suis complètement en contradiction avec ce que pense Patrick Cohen, qui veut faire rentrer le plus grand ministre de la Culture au Panthéon. Parce qu'en fait, il va rester dans l'histoire comme juste le penseur de l'État-providence culturel. C'est-à-dire que le type, il a distribué des bifetons à tour de bras, il a fonctionnalisé la chaîne, il a arrosé de la moindre petite parcelle pour créer une culture officielle. Bon, la culture officielle, on sait ce que c'est totalitaire, on l'a vu dans les régimes qui ont précédé Jack Lang. Donc c'est le fossoyeur de la culture totale. C'est simple, sa phrase, c'est « tout est culture ». Voilà, tout est culture. Donc il nous a fait croire que le tag, le skateboard, le rap, bah, c'était pareil que Mozart, que Dante, que Baudelaire, qu'Apollinaire, tout ça. Dès qu'il y avait un analphabète qui se pointait, qui geignait... Oh, c'était merveilleux, l'orgasme montait, on tutoyait des anges. Et dès que le premier dégulis d'adolescent était sponsorisé, on disait « Ah, regarde Shakespeare, tu commences à craindre un peu ». Bref, tout est culture, donc plus rien ne l'est, tout le monde est créatif, donc il n'y a plus d'artistes. Voilà, c'est le problème. Et c'est le problème des progressistes, parce qu'en fait, bah, l'art, c'est pas vraiment raccord avec leurs idéologies. Parce que l'art véritable, heureusement, Dieu existe, on le voit de temps en temps, à chaque fois que ça apparaît, ça leur jette à la tronche un démenti magistral. Bah non, en fait, l'art, c'est pas égalitaire. C'est inégalitaire, c'est électif, c'est transcendant. Bref, c'est l'anti-Jack Lang. Et bon, évidemment, on se rappelle tous de Philippe Murel, qui parlait du règne des artistocrates. Bon, bah, Jack Lang, c'est ça. C'est le prince, le roi des artistocrates. Et donc, je peux vous recommander, chers amis, un roman très marrant. On l'a reçu l'auteur dans Restons Courtois la semaine dernière. Il s'appelle Gérald Siblera. C'est un dramaturge. C'est pas n'importe lequel, parce que c'est l'un des auteurs de théâtre contemporain. Donc, et du théâtre privé, le plus important aujourd'hui. Le type, il a 3 Molières dans sa besace, autant de nominations, ses pièces cartonnent, sont adaptées. Et on l'a reçu dans Restons Courtois la semaine dernière, parce qu'il a publié un roman qui s'appelle « Nous sommes tous des artistes », évidemment en référence à Jack Lang, « Tout est culture », qui nous raconte une sorte de voyage dans la France rêvée par Jack Lang. Donc c'est grotesque, c'est méchant, et c'est surtout très tragique. Donc chers amis, chers auditeurs, achetez-le, vous allez rire et pleurer en même temps.
Eh bien, merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Je vois que vous avez peu parlé de la fête de la musique, quand même, dont vous manquez de faire la louange.
Bah, disons que je me dis, vous savez, les industries en France marchent pas très bien. Et la fête de la musique avait quand même cette qualité, ça a permis l'essor de l'industrie de la boule qui est. Il n'y a jamais autant de boules qui est achetées le 21 juin, pardon, au matin. Donc je me dis, si on supprime ça, bah, déjà qu'il nous reste plus grand-chose, si les boules qui est disparaissent, bah, on va foutre quand même pas mal de gens au chômage. Mais bon, après, si on regarde un point de vue purement culturel, donc artistique plutôt, parce que culturel, c'est quand même maintenant un truc galvaudé, créé par la gauche, Bah, juste de dire qu'en fait, un débile qui ne sait pas chanter va jouer de la casserole ou rapper à côté d'un type qui va faire du violon et il n'y a aucun espace qui sépare les deux sons. Je sais même pas dans quel cerveau malade on a pu créer cette idée.
Mais je suis en train de me dire quand même que vous êtes un sacré rabat-joie, Arthur de Vatrigan. Mais merci quand même, chers auditeurs. Je rappelle que si vous voulez que ces matinales se poursuivent, il faut absolument que vous fassiez des dons à Radio Courtoisie. C'est très important, nous en avons besoin.
C'est très important et pour cela, eh bien, il vous suffit de nous faire des dons en ligne, par exemple, en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou encore d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. On compte sur vous, merci.
Voilà, c'est très important, surtout pensez-y, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et ça nous aide énormément. Et tout de suite, le face-à-face.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Et donc je reste avec les mêmes personnes brillantes et merveilleuses que sont Richard de Sèze et Arthur de Vatrigan pour ce face-à-face. Alors, nous étions sur évidemment le bilan désastreux de Jack Lang. D'un autre côté, effectivement, on voit que de manière générale, il y a eu comme... Je voyais hier un extrait, je crois, d'un certain Daniel Lévy, qui était sur l'émission de Frédéric Taddeï, qui défendait, il y a quelques années, en plateau, en direct, le droit à avoir de la... à être pédophile, estimant qu'on devait nécessairement ouvrir le débat. On a l'impression que c'est une parenthèse qui se referme quand même, après, depuis l'affaire Cohn-Bendit jusqu'à Epstein, il y a eu une quarantaine d'années sur la pédophilie qui ont été une impunité totale et que ça se referme peut-être aujourd'hui.
Alors, il y a une impunité médiatique. Mmh. C'est-à-dire, voilà, effectivement, on en a beaucoup parlé sur Ligne droite et évidemment partout ailleurs. Daniel Cohn-Bendit, ses déclarations stupéfiantes à la télévision, la courageuse Bombardier qui réagit, et ensuite une complaisance coupable d'un petit milieu politico-médiatique qui explique qu'il faut faire évoluer les mentalités et qui aujourd'hui se défend en expliquant que mais tout ça c'était une autre époque. Voilà, mais non, à cette époque-là, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises et comme Arthur de Vatrigan l'a rappelé, en fait, aucune mère de famille et aucun père de famille expliquer qu'après avoir lu un article dans Marie Claire ou une tribune dans Libération, finalement on allait jouer à Youpla Boom avec les enfants. Voilà, ça c'est n'est que dans la tête malade de ceux qui réclamaient une sexualité différente comme Jack Lang. Cette impunité, en fait, elle continue. La personne que nous étions censés recevoir, ou plutôt qui avait accepté de venir ici, Omaira Sellier, donc dirige cette ONG Innocence en danger, et par exemple en 2024, elle était présente, comme chaque année dans plusieurs affaires, il y a déjà quasiment une trentaine d'affaires pour laquelle Innocence en danger a été mobilisée en France depuis le début de l'année, elle intervenait dans un des scandales de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Autrement dit, médiatiquement et politiquement, les sexualités différentes, voilà, la pédophilie en a été retirée. Maintenant, la pédophilie a basculé officiellement dans le camp du mal. Donc, plus personne ne peut expliquer que c'est aimable, même si certains continuent à le faire, et d'ailleurs sans être particulièrement inquiétés. Mais en revanche, il y a de la pédophilie en France et une pédophilie à grande échelle on se rend compte que l'aide sociale à l'enfance donc a réussi à faire en sorte que des mineurs qui lui étaient confiés entre 15 et 20 000 sont prostitués. Alors, vous me direz très bien, effectivement, il y a vraisemblablement de la part de l'aide sociale à l'enfance un double problème. Le premier problème, c'est qu'il n'y a aucune vérification des antécédents d'au moins deux tiers des familles d'accueil. Merci, bravo, c'est bien vu. Et le deuxième problème, c'est que l'aide sociale à l'enfance ne se retrouve que très rarement sur le banc des accusés une fois qu'une gamine ou un gamin qui a été prostitué a été rattrapé par la police, qu'on a pu identifier quels étaient ses clients. Donc Donc les clients ne sont pas si souvent que ça condamnés. Ils sont parfois condamnés pour des faits qui sont requalifiés. Donc là aussi, on se demande qu'est-ce que la justice a en tête. Et on a tendance d'ailleurs, un peu comme dans le cas de ces gangs pakistanais qui prostituaient des adolescentes anglaises, à criminaliser le jeune de l'ASE en expliquant que c'est un mineur en fugue, qui n'a pas suivi les consignes de son éducateur. Autrement dit, que les gamins qui sont confiés par l'État à des familles, les gamins qui sont sous la responsabilité de l'État, se retrouvent prostitués alors qu'ils sont mineurs, se retrouvent prostitués et ceux qui dirigent l'ASE ne sont pas sur les bancs des accusés. Les responsables départementaux de l'État, ceux qui sont les élus qui ont la charge de cette aide sociale à l'enfance, ne sont pas condamnés. Et on en a parlé à plusieurs reprises sur Radio Courtoisie. Il y a une espèce de complaisance ahurissante de la justice et de l'administration vis-à-vis de la pédophilie. Donc vous avez tort.
Ah bah merci. Non mais Arthur de Vatrigan, est-ce qu'un jour viendra où les traîtres paieront finalement, ou est-ce qu'on arrive à la fin de l'ère de l'impunité, ou est-ce que finalement elle va juste trouver d'autres moyens de se poursuivre cette pédophilie?
J'admets que ça réveille chez votre serviteur quelques pulsions purificatrices avec des envies de s'embûcher de l'Inquisition et de lanterne. Mais disons qu'après, on réfléchit, on se dit, bon, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Ou en tout cas, ça sera pas compris comme un désir de purifier ces sales âmes. Mais pour parler plus sérieusement, quoique je suis quand même un peu sérieux, je vous donne un exemple. Ça s'est passé en septembre 2024. Un magistrat a été condamné en appel à 3 ans de prison avec sursis probatoire pour avoir proposé des relations sexuelles avec sa fille de 12 ans. Ce type était ancien vice-président du tribunal de Dijon. Il propose sur un site de sa fille de 12 ans et il prend 3 ans avec sursis. Voilà. Donc là, j'y vois évidemment le signe d'une corpo qui se protège, mais une élite est une corpo. Qu'on vivait dans les sphères de Epstein, de Jack Lang, d'Olivier Colomb, dont on pourra peut-être parler, parce qu'il y a quand même des choses étranges qui sortent aussi à son endroit, on appelle ça une élite mondialisée qui non seulement se croit intouchable, mais lorsqu'il y a une ouverture, se protège. Je vous révèle un truc, je vous fais un scoop. Je crois que personne n'en a parlé encore dans les affaires Epstein. Ils étaient très, très, très intéressés par l'affaire DSK. Mais alors, si vous regardez, il y a beaucoup d'échanges courriels sur l'affaire DSK, oui, mais tu crois qu'il va vraiment aller en prison, oui, mais c'est une menteuse, la femme qui l'accuse, regardez, c'est la même, je cite de mémoire, mais je ne me trompe pas sur le sens, et vous pouvez vérifier, Nafissa Tou, où cette fille ment comme la fille de Andrews ment, comme chacun sait, la fille de Andrews a menti, évidemment, et à tel point que Epstein a demandé dans un mail à un très inquiet par la santé de DSK, qui le pauvre a été enfermé dans son appartement tout petit, et donc a demandé au je crois que c'est le fils d'un président sénégalais qui revient beaucoup dans les échanges, a demandé s'il pouvait trouver un appartement avec un immense rooftop pour DSK, parce que sinon il ne le tiendrait pas. Donc vous voyez, on est quand même dans un, et ça je sors ça des, c'est des faits, c'est dans les échanges de mails. Vous pouvez vérifier. Donc, on voit qu'on a affaire à une élite qui se connaissent directement, indirectement, ou qui se connaissent juste de nom, ou qui ne se connaissent pas, mais quelqu'un recommande. Et donc, non seulement ils entretiennent leur vice, leur saloperie, les alimentent, parce qu'on pourra parler de M. Colomb, qui échange, donc qui était l'ancien conseiller de Sarkozy, qui est maintenant le conseiller de Marine Le Pen ou du RN en Afrique, et qui échange à coup de le message codé avec Epstein, en parlant de White Shark, en parlant de crevettes grises, de crevettes coupées, de requins marteaux, de filles dans un aquarium. Tout ça, évidemment, sponsorisé par un prince d'Arabie Saoudite. Donc là, on est autre chose que sur « j'ai besoin de 5 millions d'euros pour refaire la devanture de mon château ». Donc on voit bien qu'on est dans une élite qui, voilà, qui alimente ses vices et s'autoprotège, qui se croit intouchable, mais quand il y a un truc qui arrive un peu, bon, on se dit, t'inquiète, je vais appeler Robert de tel procureur, je vais appeler tel journaliste, je vais appeler tel politique, et on va s'arranger. Donc forcément, bah, ça peut être que pire. Quand vous avez mis le doigt dans ces immondices, Bah, sur plusieurs années, les immondices grossissent. Hein. C'est le principe, Satan, vous lui laissez un peu de place, lui, il va débarquer comme George Bush en Irak, il rase tout, il prend la place.
Oui, et puis d'un autre côté, alors moi il y a quelque chose, une question qui se pose forcément, c'est que alors évidemment que l'affaire Epstein est choquante au dernier degré, ça ne fait aucun doute, et au vu du nombre aussi de personnes impliquées, même sur l'île hein, d'ailleurs, même dans ces affaires de pédophilie directement, ça représente comme un sacré paquet de gens, au-delà de ceux qui fréquentaient de près ou de loin Epstein. D'un autre côté, on a l'impression, enfin. La pédophilie, c'est Richard en parlait d'ailleurs très justement à l'instant au sujet de l'aide sociale à l'enfance, mais c'est quelque chose qui existe certes dans l'élite, mais qui existe aussi au niveau de l'aide sociale à l'enfance, qui existe aussi avec des éducateurs comme l'infâme Pierre-Alain Cotineau, qui existe aussi parfois dans certaines écoles privées, qui existe dans, en fait, finalement, même chez les médecins, chez les magistrats, vous l'avez décrit, dans plusieurs strates de la société. Et là, on a l'impression que c'est presque quelque chose qui est réservé à cette élite décadente.
Non, mais évidemment qu'on ne va pas découvrir que le péché originel étant l'homme et que tout le monde est peu... Quoi, tout le monde ? Toutes les classes sociales, on peut trouver des pédophiles dans toutes les classes sociales, évidemment. Mais il y a quand même une différence, encore une fois, c'est contrairement à ce qu'a essayé de nous faire croire des germano-pratins pendant quelques années, la pédophilie n'a jamais été considérée comme une chose normale. Et au contraire, ça a été considéré comme un truc immonde. Et si vous faites un sondage, 89% des Français sont prêts à zigouiller le pédophile qu'ils croisent. Et ça, ça a toujours été comme ça. Donc, en fait, il y a une différence entre dire ça existe partout, oui, et dire il y a un seul endroit où c'est encouragé, on trouve ça cool, et les moyens matériels font qu'on permet de le déployer à échelle industrielle, c'est dans ces élites mondialisées.
Alors, je voudrais quand même revenir un petit peu sur les élites mondialisées et la manière dont ça fonctionne. Elisabeth Louvel, qui dirige l'Observatoire des décisions de justice, régulièrement épingle la complaisance aberrante du parquet français. Vous savez, ceux qui ont besoin d'être mobilisés par un dépôt de plainte pour intervenir. Par exemple, un homme de 24 ans ayant violé une enfant de 7 ans dans les toilettes de la plage des Deux-Rives à Nancy a été remis en liberté par décision du juge des libertés. Alors qu'elle se trouvait aux toilettes, la jeune victime a été violée par l'individu, interpellée plusieurs jours plus tard. L'agresseur, déjà condamné pour violence, a été présenté au tribunal et mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Contrairement aux réquisitions du ministère public qui réclamaient son placement en détention provisoire, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire par décision du juge des libertés. Et ça, des histoires comme ça, Elisabeth Louvel en a à la caisse. C'est-à-dire, les pédophiles débarquent de l'inceste, soit de la consommation de prostituées mineures des deux sexes, débarquent au tribunal, les faits sont requalifiés, et quand les faits sont avérés, sont requalifiés, mais permettent quand même une condamnation, les décisions de justice sont aberrantes. Donc,
c'est vrai pour le reste aussi. Si vous regardez dans tous les faits de société, que ce soit des agressions sexuelles, des actes de pédophilie, des attaques au couteau ou des meurtres, au premier, le casier du type, c'est jamais sa première. C'est soit un type qui a été libéré en avance, soit un type qui a été laissé en liberté en attente de son jugement. Malheureusement, c'est le cas partout. Alors, on peut réfléchir à ça. Pourquoi ? C'est parce que les juges se sentent impunis ? Bon, on va peut-être réfléchir à d'autres solutions pour essayer d'enlever leur sentiment d'impunité. C'est parce qu'il n'y a pas de place en prison et donc en hiérarchie, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre vraiment les grosses peines, donc c'est-à-dire pas le type qui a violé une fois, mais le type qui a violé trois fois parce qu'il manque de place. Ou alors, c'est des raisons idéologiques. Le type, c'est une victime aussi, parce que sinon, il ne fera pas ça. Donc, il faudrait peut-être... vous allez me dire, ça fait longtemps que beaucoup réfléchissent à cette question, mais en tout cas, elle n'a jamais été tranchée. Mais je pense qu'il y a, en effet, ces trois choses qui jouent, c'est-à-dire des raisons idéologiques chez certains magistrats, le sentiment d'impunité qui font que... Ça arrive aussi, vous avez des affaires où le magistrat, il va se barrer en week-end le vendredi, il a un truc qui tombe sur le bureau, il fait « Oh, c'est un bon bête, on verra ça lundi. » Puis entre-temps, lundi, il se passe quoi ? Il se passe un truc dans le week-end de la personne qui devait venir dans son bureau et qui pourrait éventuellement être mise en dépôt. Il y a ça aussi, donc il y a la fainéantise, tout ça. Et puis il y a aussi les prêches de prison, malheureusement. Mais encore une fois, on a quand même une particularité française, c'est qu'il n'y a jamais de coupable.
Oui.
Jamais.
Les
journalistes. Ni les magistrats, personne.
On a l'impression quand même que En plus, en fait, ce qui perturbe particulièrement les gens, je pense, dans cette affaire Epstein, c'est quand même, et même de manière générale dans toutes ces affaires pédophiles, c'est que ce sont souvent des personnes qui n'ont aucun problème à se parer de grandes morales et de grandes idées souvent de gauche et progressistes, et donc de faire la leçon à tous les autres, mais qui allaient même à l'époque jusqu'à vouloir imposer, comme vous le disiez Arthur, cette idée de normalisation de la pédophilie, mais en plus qui aujourd'hui on les retrouve effectivement condamné, qu'il l'ait défendu ou non, condamné pour des affaires de pédophilie, alors même qu'il faisait la leçon sur à peu près tous les sujets au nom de la morale et de la République.
C'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de réactionnaires et de gens d'extrême droite dans les dossiers Epstein, étonnamment. Oui. Je cherche, hein, je vous promets que je cherche. Hein. Je tape tous les mots-clés, beurre, de messe, tout ça, on ne trouve pas. C'est assez marrant. En fait, le problème, c'est qu'avec la gauche, il y a le bien et le mal. La vie est simple, hein. Il y a le bien, le mal, ils sont toujours du côté du bien. Le problème, c'est que le bien évolue, le mal aussi. Donc le bien, c'était la pédophilie pouvait être un truc bien dans les années 70, c'était pas un mal. En fait, la date de la pédophilie, c'est les années 90, hein, du tout. Jusqu'avant, c'était pas un mal. Bon, depuis 90, c'est devenu un mal. Donc ils se rangent du côté du bien. Mais ils s'adaptent, hein. Les types sont des caméléons du dilemme moral. Le but, c'est qu'ils soient toujours du bon côté du manche. Ils s'adaptent, ils évoluent, mais sans aucun problème, ils expliquent très bien. Oui, mais je me suis trompé. Ah bon, d'accord, mais il y a quand même 15 000 gosses qui se sont fait sodomiser. C'était une autre époque, c'est pas grave. Maintenant, ce qui compte, c'est que moi, je suis toujours du bon côté, je vais vous dire qu'il faut faire. Mmh. Voilà. Bon, c'est quand même une des caractéristiques premières de la gauche, malheureusement.
Je voudrais revenir sur l'affaire Epstein et quitter le terrain de la pédophilie, puisque en fait l'affaire Epstein, ce n'est pas que de la pédophilie, c'est aussi un scandale sexuel, c'est aussi de la corruption, c'est aussi du trafic d'influence. Enfin, une fois de plus, de même que Jack Lang ne doit pas être l'arme qui cache la forêt française, de même la pédophilie d'Epstein ne doit pas être l'arme qui cache la forêt de ce trafic d'influence dans lequel les gens ont baigné très volontairement, puisque voilà, il était capable de monnayer son carnet d'adresses, et donc certains en ont profité sans forcément profiter de ses libéralités sexuelles. Voilà, et donc malgré tout, le fait de faire du trafic d'influence, ça aussi c'est condamnable. Et revenir sur la manière dont en Angleterre Keir Starmer est inquiété, en Norvège là aussi le monde est secoué, aux États-Unis le Donald Trump et son camp ont commencé à faire la lumière sur l'affaire Epstein, mais les Américains réclament toujours plus et une ouverture de plus en plus large de dossiers de moins en moins censurés, sinon pour protéger les victimes. En France, on a droit à des gens qui expliquent qu'il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite, c'est ce que racontait France Inter il y a encore quelques jours, et que, attention, donner du prix, du poids et de la substance à l'affaire Epstein, c'est en fait justifier les thèses complotistes.
Oui, bah, de toute façon, encore, le problème de ces gens, on va dire, on va caricaturer, mais ce ne sera pas si loin de la vérité quand même, ces gens qui vont du centre-gauche à l'ex-PS, bon, soit des journalistes, soit des hommes politiques, ils sont persuadés d'être honnêtes. Mais ils en sont intimement persuadés, ce ne sont pas des menteurs, ce ne sont pas des types qui manipulent et qui disent « Ah ah ah, regarde, je t'avais vu ce que je leur ai mis dans la tronche ce matin au micro de France Inter ». Non, ils en sont persuadés. Donc, quand vous êtes persuadé d'avoir raison, c'est compliqué de repérer déjà le moindre caillou qui rentre dans votre godasse. Hein. Non, c'est pas un caillou, ça partira, c'est rien du tout. C'est, voilà, donc on a un problème avec ça, et le problème, c'est que ces gens-là, ils sont aux manettes de beaucoup d'outils puissants et souvent sponsorisés par nos impôts. Bon, après, il y a, encore une fois, cette particularité française de jamais avoir de coupable. Mais jamais. On peut faire les pires trucs avec... et je ne parle pas forcément des choses immondes, hein. Je parle de conséquences politiques, par exemple. Bon, jamais on paye pour ce qu'on a fait. Il y a tous les chiffres qui montrent que le chômage explose, qu'on a foutu la France sur le marché et qu'on se retrouve à poil parce qu'on n'a plus d'industrie, plus un truc qui fonctionne, qu'on a vendu la France à l'Europe en 2007, et merci Sarkozy, mais aujourd'hui on dit que la droite veut récupérer Sarkozy, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même Victor Hugo et Alexandre Dumas mélangés. Il y a le côté de « jamais on est coupable », et en même temps les Français sont atteints d'un Alzheimer dès que le type n'est plus dans le circuit politique. Donc bah, forcément, ça n'encourage pas l'humilité et ça n'encourage pas à la repentance non plus.
Ceci dit, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de repentance qu'il y a aussi un tel oubli. C'est-à-dire que si les gens finalement se souviennent plus de tous les méfaits passés, c'est parce qu'ils ont déchargé la responsabilité sur, sur à peu près tout ce qu'il y avait autour.
Moutatis Moutandis, j'ai particulièrement apprécié la position de l'Église catholique expliquant que puisqu'il y avait quelques prêtres pédophiles, c'était toute l'Église qui était coupable. Là, c'est exactement la même défense que celle de Jack Lang, puisque je défendais la pédophilie. En fait, c'est toute l'époque qui était pédophile. Voilà. Donc, et ça, c'est systématiquement le même genre de réflexe, c'est-à-dire, il est hors de question que je sois personnellement responsable d'une mauvaise action, surtout quand elle est avérée. Il est hors de question que mon discours soit préjudiciable, et donc voilà, les gens de Davos considèrent qu'il est parfaitement normal de voyager en jet privé pour se réunir dans une station de ski en Suisse pour décider du sort du monde avec Klaus Schwab qui explique aux gens vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, et voilà, ça c'est quelque chose qui est aimable, et il est normal que les riches, les puissants aient une avidité sans frein et sans borne et désirent posséder toute la richesse et tous les êtres, et bien sûr ce n'est absolument pas le fait que les riches fassent les lois, ce n'est absolument pas que les riches en fait possèdent les puissants qui leur permet de penser ça, pas du tout, c'est la société qui l'a généré, un peu comme ce crétin de Bérou qui expliquait que, enfin je n'aurais pas dû dire crétin, un peu comme François Bérou, ex-premier ministre et avec un peu de chance futur ex-maire de sa ville, expliquait que c'était les Français qui étaient responsables de l'endettement collectif. Voilà, c'était pas du tout les décisions des gouvernements qui l'avaient validé. Non, c'était les Français qui par leur avidité étaient responsables.
Non, mais les gouvernements ont été élus par les Français aussi. Oui, donc c'est bien sûr,
avec toujours cet incroyable contrôle démocratique des Français sur la manière dont les gouvernements accomplissent leurs actions.
Je pense que les Français collectivement n'ont aucune culpabilité dans la situation du pays pour l'immense majorité, étant donné qu'ils n'ont pas exercé cette responsabilité. En revanche, ils ont une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire, je dirais qu'ils sont responsables, mais pas coupables dans cette affaire, parce que évidemment, ce ne sont pas eux qui ont commis les erreurs, prenons sur la dette, les erreurs budgétaires et financières phénoménales. D'un autre côté, ils ont une part de responsabilité parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour agir contre ? Malheureusement, force est de constater qu'il y a eu quand même globalement, très souvent sur ces 40 dernières années, des votes à peu près toujours dans le mauvais sens.
Enfin, on va pas brusquement basculer de ce côté-là. Je parle du mécanisme qui consiste à dire je ne suis pas responsable, c'est tout le monde qui est responsable sauf moi. Voilà, donc, et y compris de la part de ceux qui sont aux commandes, voilà, de ceux qui sont éclairés, de ceux qui sont capables d'agir et qui en fait n'agissent pas.
Non, mais ça, c'est évident. De toute façon, ils ne sont jamais coupables. Jamais. Ce sont les mêmes qui sont là depuis des décennies, et puis c'est jamais de leur faute. Après, je rejoins Alexandre, Macron a été élu deux fois. Alors, je doute toujours un peu de l'utilité du vote, de la démocratie, de la République. Mais disons que quand on... Allez, avec toutes les casseroles qu'il a, c'est même plus les casseroles qu'il avait en 2022, c'est l'usine de cuisine, c'est la batterie entière. Bon, il a été réélu, et on n'a jamais foutu un pistolet sur la tempe des Français pour leur dire « vous votez Macron ». Bon, voilà. Au bout d'un moment, il y a aussi une responsabilité individuelle, évidemment, mais c'est pas eux qui ont choisi le type à la tête du Conseil d'État, le commissaire des comptes, le haut perchoir qui a dit telle et telle commission à l'Assemblée sera validée par telle et telle personne, évidemment. Évidemment. Néanmoins, c'est eux qui disent combien il y a de députés et qui est le président. Voilà. Donc il y a quand même aussi une responsabilité des Français.
J'aurais mieux fait de pas parler de Bérou, et donc une fois plus, le sujet c'était la manière dont ceux qui sont au pouvoir expliquent que en fait c'est la volonté du peuple qui les a amenés à couvrir des enquêtes, faire en sorte d'orienter la justice, faire en sorte de ne pas criminaliser certains comportements, etc.
Mais parce que vous ne savez pas, eux ils savent. Voilà. Nous, on n'a pas les moyens. On a un petit niveau, on voit pas grand, on est un peu rabougri, on regarde, comme on est réactionnaire, on regarde en arrière, donc forcément, on voit pas l'avenir, donc on sait pas anticiper. Et on a besoin de ces puissants pour nous guider, nous dire ce qu'il faut faire. Et s'ils se trompent, ça sera notre faute de toute façon, donc c'est pas grave. Ça, évidemment, malheureusement, mais c'est comme ça depuis deux siècles.
Eh bien, espérons que ça s'arrête un jour, parce que ça commence à faire un petit peu long. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan, d'avoir prolongé un petit peu cette chronique, enfin, prolongé cette chronique. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est bientôt 8h14 et dans la suite de la matinale s'annonce d'ailleurs particulièrement intéressante. Dans un instant, nous aurons la chronique d'Alice Cordier. Ensuite, un entretien avec Mathias Renaud qui nous parlera eh bien, de la Cour des comptes, du droit de vote des étrangers. À 8h45, ce sera la chronique de Yann Bali. Et puis à 8h57, nous recevrons Jean Messia, pour son analyse. À 9h25, chronique de l'Orient simplifié pour SOS Chrétien d'Orient. Enfin bref, rien n'est fini, mais tout de suite un petit point sur l'actualité avec Maëlys Quezel.
10 ans après la mort d'Adama Traoré, la justice tranche définitivement. La Cour de cassation confirme le non-lieu pour les gendarmes. Malgré une décennie de procédures et d'accusations de racisme systémique, jamais confirmé par les expertises, aucun procès n'aura lieu. La famille Traoré annonce vouloir saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans la Marne, un adolescent de 14 ans a été violemment frappé par un autre mineur sous l'œil de jeunes qui filmaient la scène pour les réseaux sociaux. L'agresseur présumé, 15 ans, sera jugé début mars devant le tribunal pour enfants, après avoir été déplacé vers un autre foyer. Et le verdict est attendu. La Cour d'appel rendra le 7 juillet à 13h30 sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires visant Marine Le Pen et le Front National. Le parquet réclame notamment 5 ans d'inéligibilité contre la chef du RN, une sanction potentiellement lourde à l'approche de la présidentielle. Et nous fêtons en ce 12 février Sainte-Eulalie et Saint-Félix d'Abitaine.
Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et je reçois désormais Alice Cordier. Bonjour Alice.
Bonjour cher Alexandre.
Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors après Alice en garde à vue, Alice face aux Antifa, nous avons Alice face au Quai d'Orsay. Pour ceux qui ne savent pas, le Quai d'Orsay est donc le ministère des Affaires étrangères. En effet, il y a quelques jours, mon ami Tommy Robinson, grand militant britannique identitaire, m'a proposé et m'a prévenu qu'il venait à Paris et qu'il souhaitait absolument découvrir les meilleurs quartiers parisiens, les quartiers les plus en vogue de la ville. Et il m'a donc proposé qu'on aille Gare du Nord. Alors, évidemment, c'était dans une volonté de dénoncer ce qui se passe en ce moment Gare du Nord, à savoir le fait qu'il y a du trafic de drogue, de cigarettes et de toute autre chose totalement à ciel ouvert, en plein cœur de la gare, devant la gare, sous les yeux parfois impuissants des policiers de la sécurité SNCF, de la sécurité RATP. Et c'est ce que nous avons remarqué quand nous sommes arrivés devant la gare du Nord. Il y avait bien de la sécurité, mais qui n'agissait pas face à des gangs de plus en plus nombreux. Nous sommes allés donc leur parler de façon courtoise pour leur demander ce qu'ils faisaient là, parce que vous voyez en fait devant la gare du Nord tout un tas de jeunes hommes, les bras ballants ou plus ou moins ballants d'ailleurs, parfois cachant des choses dans leurs poches, et qui sont là à zoner et à attendre. Et donc Tommy est donc venu leur demander ce qu'ils faisaient là, etc., tout en sachant évidemment à qui on parlait. Et c'est alors qu'est arrivé un monsieur, un bon petit britannique qui sans doute avait reconnu Tommy Robinson et qui s'est senti pousser des ailes et senti obligé de prévenir toute la population que nous étions de méchants racistes. Alors vous voyez, je trouve que déjà l'image est belle. On a des gens, des militants qui vont dénoncer une situation illégale, une situation anormale, une situation également dangereuse qui entraîne de l'insécurité devant la gare du Nord. Et on a un monsieur, un bon petit blanc bien rangé, qui va aller dénoncer tout cela en expliquant que nous sommes des méchants fachos. Ce qui devait arriver donc arriva, nous sommes faits agressé par un certain nombre de ces dealers. La scène a été filmée, évidemment, par les bons soins de Tommy, diffusée sur X, anciennement Twitter. Et à partir de là, la vidéo a évidemment bien marché, avec près de 2 millions de vues. Et nous avons eu tout un nombre de réactions saines qui dénonçaient justement cette chose-là, jusqu'à ce qu'un compte dénonce, ou du moins nous propose quelque chose d'un peu étrange après la diffusion de cet extrait. Le compte s'appelle French Response. C'est un compte qui en fait est rattaché au ministère des Affaires étrangères et qui répond régulièrement à la situation en France, notamment quand des touristes s'y présentent. C'est un compte qui récemment a fait parler de lui, justement parce que il s'était mis à user d'ironie en taclant régulièrement Elon Musk, en taclant un certain nombre de dirigeants qui visiblement ne plaisaient pas à French Response, donc au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. De là, il a choisi l'ironie et la moquerie pour nous répondre en disant qu'il regrettait que nous n'avions pas apprécié notre passage à Paris et que nous pouvions, si nous souhaitions revenir, le contacter pour nous faire une meilleure visite. Comme si en fait nous étions des touristes, que cette scène d'insécurité était en fait une scène, peu banale. L'insécurité, et c'est le ministère des Affaires étrangères doit le savoir, ne fait qu'exploser. Des youtubeurs du monde entier viennent à Paris pour montrer la réalité de la capitale française. Ils repartent toujours avec des images catastrophique pour Paris. Je rappelle qu'il y a quand même des cartes de Paris japonaises avec les endroits à éviter, les zones d'insécurité, les arrondissements fréquentables et ceux qui ne le sont pas pour les touristes. Mais ça, visiblement, ça amuse terriblement la diplomatie française. Alors, heureusement, il y a eu un certain nombre de levées de boucliers quand même hein, pour nous soutenir un peu. Je pense à Eugénie Bastier, évidemment, qui s'est demandé en quoi, justement, des deux personnes qui se font entourer, menacées de mort, je vous cacherai évidemment les autres insultes de viol sur ma personne que j'ai pu essuyer à ce moment-là, ou vis-à-vis de ma maman aussi, hein, d'ailleurs. Mais visiblement, voilà, c'est quelque chose qui amuse énormément la diplomatie française sur une période où quand même les derniers chiffres de l'insécurité, même si ce sont les chiffres provisoires, sont bien mauvais, avec une hausse des violences sexuelles, notamment dans les transports en commun, une hausse des coups et blessures volontaires, une hausse même exponentielle. On attendra les chiffres officiels pour bien le valider. Mais je dois avouer que c'est assez décourageant de voir qu'aujourd'hui, on a des petits fonctionnaires payés par nos impôts pour faire de l'humour sur l'insécurité que subissent quotidiennement les Parisiens. Et je suis assez triste de voir que malheureusement le message n'est toujours pas passé, mais on y retournera.
Merci Alice.
Merci beaucoup Alexandre.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, eh bien, il est 8h20, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir le député RN Mathias Renaud. Bonjour Mathias Renaud.
Bonjour.
Eh bien alors, je rappelle que vous êtes membre de la commission des finances, que vous êtes énarque et puis que voilà, vous nous venez de la Somme où vous êtes élu donc député. Alors aujourd'hui, on voulait parler des petits cadeaux de départ de la Macronie, parce qu'il y en a un assez joli qui vient d'arriver il y a deux jours, c'est la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes pour remplacer Pierre Moscovici. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que Amélie de Montchalin n'est pas particulièrement connue pour son excellent bilan en termes de comptes.
Non, et d'ailleurs, le principal reproche qu'on peut faire, c'est pas tant sa compétence personnelle, parce que c'est une technicienne, elle l'a montré pendant le budget, que une question de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que là, elle est nommée. En 2027, elle devra se prononcer sur les comptes de l'État 2026 qu'elle a préparé. Elle a fait voter le budget. Donc, au moment de 2027, donc il y a donc la Cour des comptes qui fait un rapport sur les comptes 2026. Il y a le Haut Conseil des finances publiques qu'elle présidera aussi, parce que c'est deux institutions liées qui fera un avis sur les comptes 2026, qui fera un avis sur le budget 2027. Donc là, il y a un mélange des genres évident. Et au-delà de ça, le quotidien de la Cour des comptes, c'est faire des rapports budgétaires, thématiques, en prenant pour contrôler des gens qu'elle a, dont elle a été chef, dont elle a été le supérieur hiérarchique. Donc ça pose un gros problème d'impartialité. Moi, dans une vie antérieure, j'étais magistrat financier en Chambre régionale des comptes. Alors je ne veux pas faire de mélange des genres entre mes précédentes fonctions et mes fonctions actuelles, mais juste pour témoigner des règles qui étaient en cours et qui sont toujours en cours. Par exemple, quand on était, donc quand on quitte une chambre régionale des comptes, donc avec un ressort régional, on a un système d'inéligibilité pour tout mandat local pendant 5 ans après avoir quitté les fonctions. Et ça marche dans l'autre
dans
sens
cette,
aussi.
Dans cette région. Oui.
Et en fait, ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que quand on a été à la tête d'un exécutif local, on ne peut pas ensuite candidater pour être magistrat financier en Chambre régionale des comptes dans la région en question. La raison invoquée, c'est que c'est d'éviter un mélange des genres entre être à la tête d'un exécutif et gérer un budget local et ensuite le contrôler. Donc c'est vrai que par parallélisme des formes, on pourrait se dire déjà il y a une question de conflit d'intérêts, mais il y a d'autres problèmes aussi dans cette nomination.
Alors, dites-nous lesquels. Moi, j'en ai noté un, c'est que théoriquement, elle pourrait rester pendant environ 27 ans.
Ouais. Bah, effectivement, ça, on le découvre. Enfin non, on le découvre pas parce qu'on connaissait les règles et ceux qui ont été à l'intérieur le connaissent parfaitement, mais l'habitude c'était d'avoir des gens qui étaient plutôt proches de la soixantaine. Là, Méline Montchalin a 40 ans, donc effectivement elle est inamovible pendant 27-28 ans, jusqu'à ses 68 ans maximum, donc ça pose évidemment un problème. Alors vous me direz, c'est du domaine de la loi, c'est-à-dire que la loi ça peut se changer. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait des initiatives législatives dans ce domaine. Alors toujours un peu dans le même ordre, il n'y a pas, contrairement par exemple à la tête du Conseil constitutionnel, et ça fait un certain nombre de remous, il n'y a pas d'avis donné par les commissions parlementaires. Voilà, donc on ne sera pas saisi, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, de cette nomination pour donner un avis, donc ça c'est un autre problème. Ça relève de la loi organique, donc ça c'est pareil, ça peut faire l'objet de propositions législatives, mais enfin j'ai envie de dire que pour le cas d'Amélie de Montchalin, c'est trop tard.
Oui, et puis d'autant que rappelons qu'elle aura la bagatelle de 14 000 euros par mois, il me semble, pour la présidence de la Cour des comptes. 14 000 euros par mois pendant 27 ans, ça prépare une très très jolie retraite quand même, et puis théoriquement... c'est-à-dire que si, en fait, s'il n'y a pas d'alternative vraiment opposée à Amélie de Montchalin qui arrive au pouvoir sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, elle pourrait théoriquement rester en place contre vents et marées. Et pour le coup, là, ce sont les institutions républicaines qui, une fois de plus, outrepassent complètement la circulation démocratique qu'il y a normalement dans un régime.
Bah effectivement, c'est-à-dire que rien que le fait de dire la phrase ce type de poste à la tête d'une institution censée être indépendante, inamovible pendant 28 ans, c'est presque un problème. Rien qu'en énonçant cette phrase, on se dit qu'il y a un problème. Après, autre problème, c'est que c'est un poste qui est de fait politisé, et ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai qu'on a pris l'habitude... du fait qu'avec M. Moscovici notamment, que ce soit des anciens politiques qui prennent la tête de la Cour des comptes. Au Conseil d'État, pour prendre un équivalent, il y a un état d'esprit un peu différent. Le vice-président des Conseils d'État est beaucoup moins politisé. Alors, faut pas non plus... Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas, en tout cas, des anciens hommes politiques. Ce qui ne signifie pas qu'ils peuvent pas avoir une politisation. Mais enfin, ça pose quand même une question, la question de l'indépendance. Parce que c'est vrai que quand on regarde le degré de confiance dans les différentes institutions que peuvent avoir les Français, alors, on va dire tout en haut, vous avez... dans les institutions publiques, tout en haut, vous avez l'armée, vous avez les pompiers, les hôpitaux. Mmh. Et la Cour des comptes vient pas très très loin derrière. S'il y a encore un capital, je dirais, de sympathie, oui. de confiance, parce que la mission
principale... En plus, déjà, ils contrôlent les politiques, donc théoriquement...
Exactement, c'est-à-dire que c'est identifié comme un contre-pouvoir censé être indépendant, et en plus la mission principale c'est de voir où passe l'argent du contribuable, donc c'est vrai que de ce point de vue là il y a plutôt un mouvement de sympathie, et là on est en train, je pense, de grignoter, voire de saboter la confiance que peuvent avoir les Français dans cette institution en faisant un mélange des genres, et en l'espèce effectivement la Macronie dans cette fin de règne cherche à caser ses copains, donc c'est vrai. Alors, ça a été vrai à la tête du Conseil constitutionnel. Alors, ça a donné lieu à des nombreux débats, notamment sur le vote du Han. Mais enfin, faut quand même se rappeler que à cette époque, donc la tête du Conseil constitutionnel, de toute façon, était remise en cause. Si ça avait pété lui, ça aurait pu être pire, quoi. Et il y avait
Richard Ferrand, effectivement.
Voilà, exactement. Là, il y a un autre élément beaucoup plus récent, c'est à la tête de la Banque de France. Vous avez Monsieur François Villeroy-Garraud, donc qui a démissionné avant le terme de son mandat, très probablement pour empêcher un futur président, alors de façon générale de l'opposition, voire un président RN ou une présidente RN, de pouvoir nommer qui il ou elle souhaite à la tête de la Banque de France. Donc, M. Villeroy de Gallo étant réputé pour être un homme de gauche, je pense qu'il a été plutôt allant dans l'opération. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait sans donner d'explications très convaincantes. Et donc, je pense que l'interprétation, cette interprétation politique est la bonne. Hein.
Oui, donc rappelons effectivement pour nos éditeurs, François Villeroy de Gallo qui devait rester jusqu'en 2027 et je crois jusqu'en avril ou mai 2027 précisément à la fin au moment de l'élection finalement est parti en avance de la fin de son mandat à la tête de la Banque de France. Je rappelle que c'est un mandat de 6 ans. Donc, ça veut dire que le nouveau président de la Banque de France, eh bien, sera nommé jusqu'en 2032. Donc, en fait, jusqu'à la fin du mandat de la personne qui succédera à Emmanuel Macron. Richard Ferrand, je veux quand même en toucher un mot. Vous l'avez abordé. Merci de l'avoir fait. Donc, nommé à la tête du Conseil constitutionnel avec l'aval du Rassemblement national, reste que le symbole qui a été envoyé déjà était assez désastreux. Et à côté de ça, pardon, mais on avait l'impression que sur le moment, pour être tout à fait transparent, beaucoup de Français ont eu cette impression que Marine Le Pen avait passé un accord avec effectivement Richard Ferrand pour faire en sorte que s'il était nommé à la tête du Conseil constitutionnel, ça la favoriserait durant son procès. On a l'impression que, pardonnez l'expression, mais que le RN est cocu sur un petit peu tous les plans de cette affaire Ferrand.
Non, alors je sais que l'opinion publique peut être sensible, parfois aux histoires un peu secrètes. Il n'y a évidemment pas eu d'accord, et si ça avait été le cas, ça aurait été un très mauvais calcul. La question, c'était en gros Ferrand ou Combrexelle, qui est un haut fonctionnaire de gauche, socialiste, hyper rigide. Sachant que au moment de l'arrivée au pouvoir, enfin si on arrive au pouvoir, on aura un premier sujet qui arrivera très vite, c'est la question du référendum sur l'immigration. Article 11. Donc vous savez que l'article 11 a été utilisé par le général de Gaulle pour changer la constitution. Il y a beaucoup de constitutionnalistes qui remettent en cause cette interprétation. Et donc ce référendum sur l'immigration qu'on compte mettre en œuvre dans les toutes premières semaines en cas d'arrivée au pouvoir, il faut absolument qu'ils se tiennent. Sinon, j'ai envie de dire que la politique d'immigration qu'on prévoit de mettre en œuvre ne sera pas possible à mettre en œuvre. Donc, il faudra un Conseil constitutionnel qui donne son aval, sachant que son seul pouvoir, c'est, enfin, sans trop rentrer dans la technique, mais c'est de bloquer le décret de convocation de ce référendum. Donc, s'il annule un décret de convocation, on peut reprendre un décret de convocation. C'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir d'annuler les résultats du référendum. Hein. C'est-à-dire qu'il a seulement le pouvoir de bloquer la convocation de ce référendum. Et enfin, il est certain que s'il y a un problème, il est évident qu'on ne pourra pas reculer sur ce sujet. Voilà. Donc, avoir quelqu'un qui est un ancien politique macroniste qui arrive là, on va dire, de façon assez inattendue et inespérée de son point de vue, il est possible, voilà, c'est en tout cas le calcul qui a été fait, pour être tout à fait transparent, il est possible qu'il cède plus facilement en cas de pépin qu'un fonctionnaire hyper rigide à gauche dont on sait très bien le rôle qu'il pourrait s'auto-attribuer dans ce genre de cas et qui est à gauche par ailleurs.
Ce qui est fascinant dans tous les cas, c'est que ce sont des mandats qui sont globalement irrévocables et qui sont en fait en plus assez intouchables. C'est-à-dire que
alors je me permets une précision. Le président du Conseil constitutionnel, alors membre du Conseil constitutionnel, hein, c'est irrévocable. Par contre, président du Conseil constitutionnel, c'est pas irrévocable.
Ah.
C'est-à-dire que le président de la République peut toujours nommer président du Conseil constitutionnel un autre membre du Conseil constitutionnel. Ça, législation inchangée. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent peu noté par les journalistes, mais ça reste une possibilité. Donc si on arrive au pouvoir, il est possible, sur le papier, je ne dis pas qu'on va le faire, hein, mais il est possible de changer M. Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel par un autre membre du Conseil constitutionnel. Voilà.
Parce que finalement, le Conseil constitutionnel est composé de personnes choisies par le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et
les membres.
Présidents.
Oui. Ouais. Les membres, et après, parmi les membres, le président a le pouvoir de nommer donc le président du Conseil constitutionnel, donc parmi les membres du Conseil constitutionnel. Par contre, il peut changer. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mandat de président du Conseil constitutionnel.
D'accord. Eh bien, précision effectivement importante qui.
Bah, c'est un moyen de pression. Hein. Je vais pas être.
Non, mais voilà, qui permettrait peut-être voilà, de pas trop garder Richard Ferrand pendant longtemps. Alors il y a aussi, pardon, on était sur la Cour des comptes, Najat Vallaud-Belkacem qui avait été nommée il y a un an. En fait, moi je trouve toujours fascinante cette capacité de ce système à s'auto-entretenir. On voit avec la commission sur l'audiovisuel public menée par Charles Laloncle l'ampleur de l'intrication du Parti Socialiste avec l'audiovisuel public. Est-ce que vous pensez que on est sur une face émergée de l'iceberg, justement, sur tout ce qui est des copains casés dans dans le système?
Ça a commencé avec les années Mitterrand. C'est-à-dire que, et j'ai envie de dire que M. Moscovici était un peu la queue de comète des années Mitterrand, où effectivement, au moment de son arrivée au pouvoir, M. Mitterrand a mis en place ce qu'on appelle un spoil system, un peu à l'américaine, c'est-à-dire on prend toutes les têtes d'administration, toutes les têtes des grandes institutions, même celles réputées indépendantes, et on place des gens politiquement proches. Donc il l'a fait à très grande échelle. Ça a créé toute une génération de gens très proches du Parti Socialiste à la tête du pays, et à mesure que le Parti Socialiste déclinait électoralement, on a vu un fossé se creuser entre la représentativité du Parti Socialiste et leur poids dans les institutions. Alors c'est vrai que il faut quand même rappeler aussi que la Macronie a émergé du Parti Socialiste, donc jamais Parti Socialiste certes fait 2%, mais quelque part c'est régénéré dans ce mouvement qui a été En Marche puis Renaissance, et donc on a toujours effectivement cette vieille habitude de recaser des copains à la tête d'institutions qui sont censées et qu'on nous vante comme étant indépendantes. Voilà, donc c'est une vieille habitude d'un vieux système et qui date des années 80 Mitterrand, quoi.
Oui, et écoutez, ça fait donc à peu près 40 ans que ça dure, c'est bien, on en a pas marre. Mais d'un autre côté, alors ce qui est assez amusant, c'est que là on parlait des institutions, on va dire. Maintenant, il y a une autre modification qui a souhaité être menée par les écologistes avec... on va dire le silence coupable du centre macroniste, c'est l'ouverture du droit de vote aux étrangers dans les élections locales. Alors, la mesure devrait être ne pas passer pour des raisons, parce qu'il y a eu un blocage institutionnel.
On bloque, on le dit de façon très transparente et même fière.
Mais comment ça s'est passé alors, justement, déjà, quand vous avez appris ça, comment ça s'est passé? Comment vous avez vu ça?
Écoutez, le texte est passé en commission. Il faut dire que toutes les troupes n'étaient pas présentes, en particulier celles du bloc central. Donc la gauche était très mobilisée. C'est un vieux sujet de la gauche qui date des années 70, puis ça a été une promesse de François Mitterrand, etc. Et même, on pourrait remonter même plus loin dans l'histoire avec la constitution de l'an 2, qui n'a jamais été appliquée, mais qui donnait le droit de vote aux étrangers, et donc qui faisait cette distinction qui pour nous est fondamentale. Et c'est bien tout le fond du sujet, d'ailleurs, pour la gauche, au-delà du côté électoraliste, on y reviendra peut-être, mais tout le fond du sujet, c'est de dissocier la citoyenneté de la nationalité. Voilà, pour avoir une sorte de république universelle, cosmopolite, considérant que les citoyens sont des citoyens du monde. Et en fait, derrière ça, la question, c'est est-ce qu'on conteste le principe de la nationalité? Donc nous, évidemment, la réponse est non. Et pour l'immense majorité des Français, la réponse est non. Voilà. Donc, là, je m'éloigne un peu de la question de départ. Donc effectivement, le texte est passé en commission. Donc je rappelle, le contenu du texte, c'est ouvrir aux personnes résidant en France, mais extra-européens, le droit de vote aux élections municipales. Parce que vous savez que depuis Maastricht, les citoyens, enfin dits citoyens de l'UE, en tout cas ressortissants de l'Union européenne, ont le droit de vote aux élections municipales. Voilà, donc le texte sera discuté aujourd'hui en séance. Il est possible que le texte soit même pas, même pas discuté. Peut-être en fin de journée, on verra. Non,
expliquons. On rentrera un petit peu dans le fond du sujet à nouveau, comme vous l'avez ébauché. Ce qui s'est passé, pour que les auditeurs aient du contexte, c'est que 500 amendements ont été déposés par le RN et par la droite, je crois, LR, pour effectivement pourrir le texte, faire ce qu'on appelle du blocage institutionnel, en déposant tellement d'amendements que le texte ne pourrait jamais être discuté.
Exactement. Pour redonner encore un peu plus de contexte, donc là, aujourd'hui, c'est la niche des écologistes. C'est-à-dire que c'est le groupe écolo qui choisit l'ordre du jour et les textes sur lesquels on va travailler, donc là à partir de 9h jusqu'à minuit. Donc dans ces textes, il y a le droit de vote des étrangers pour les élections municipales. Et effectivement, alors avant de savoir l'ordre des textes, parce qu'il y a l'ordre des textes aussi qui est très important, grosso modo dans une niche, on peut discuter de, allez, 2, 3, 4 textes maximum. Bon là, voyant le nombre d'amendements qui a été posé par le RN et par LR, et votre serviteur en a posé 90 sur les 500, donc je serai là le cas échéant pour les défendre, ils ont placé le texte en dernière position. Voilà, donc il est possible qu'on n'en discute même pas, mais aussi, il est aussi possible qu'en fin de soirée, ils retirent tout le reste.
Oui.
Voilà, en disant que bon, bah, les autres vont lâcher l'affaire, mais ne vous inquiétez pas, nous on lâchera pas l'affaire, on sera jusqu'à minuit et on bloquera le texte. Le cas échéant.
Eh bien, en tout cas, je crois que même qui, d'ailleurs qu'à 18h45, voilà, il y a un rassemblement devant l'Assemblée nationale pour s'opposer à ce droit de vote des étrangers aux élections municipales. Alors, vous avez cité beaucoup de personnes de gauche, quand même, qui ont soutenu le droit de vote des étrangers. Il y a aussi une autre personne qui l'avait soutenu, c'est Nicolas Sarkozy, qui s'y était montré favorable à plusieurs reprises quand même entre les années 2000 et 2010, avant finalement d'abandonner plus ou moins l'idée. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, aujourd'hui c'est considéré comme quelque chose de presque absurde, mais il y a une quinzaine d'années c'était partagé même par la droite des Républicains.
Oui, alors votre serviteur n'a jamais vraiment cru en Nicolas Sarkozy. Je sais que bon, il y a plusieurs parcours possibles au RN, des gens qui sont anciens UMP, LR et qui ont pu à un moment donné soutenir Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler aussi qu'il a été pour la discrimination positive, c'est-à-dire en rupture avec les principes notamment d'égalité, d'accès à l'emploi public. Il avait par ailleurs fait une ouverture, je crois que ça s'appelait comme ça d'ailleurs, l'ouverture à des ministres de gauche, notamment au début de son premier quinquennat. C'est vrai que Nicolas Sarkozy était-il vraiment un homme de droite? Ça c'est question ouverte, mais effectivement aujourd'hui je vois mal un LR, que ce soit côté Wauquiez ou Monsieur Retailleau.
Bon, ou même Bertrand.
Ouais, j'allais dire ça. Voilà. Il y a peut-être un doute sur Monsieur Bertrand, mais défendre ce genre de mesure hyper impopulaire, c'est sûr que si on faisait un référendum sur cette question, je pense que la réponse serait non et dans les grandes largeurs. Voilà. Donc maintenant, c'est un marqueur. J'ai envie de dire, c'est redevenu un marqueur de gauche. Alors, quand même, dans les années 70, où ça a réémergé, on avait parlé de la Constitution de l'an 2 pour faire beaucoup d'histoire, mais ça a surtout émergé au moment des années 70. À ce moment-là, le Parti communiste français y était opposé au début. Bon, il a fini par se rallier, notamment avec le programme commun et la montée de Mitterrand, mais au début, il était opposé, considérant que, parce qu'en fait, ce qu'il y avait en toile de fond, c'était les populations immigrées, travailleuses, qui commençaient à arriver en masse en France. Voilà, donc c'est vrai qu'au début, le Parti communiste avait un discours quasiment de préférence nationale, qui était assez proche de ce point de vue-là, du discours qu'on peut avoir, en tout cas avec l'argumentation du travail, la concurrence par le travail, et même dans l'exercice donc, de la citoyenneté, qui était assez proche du Rassemblement national, sans le côté identitaire, mais enfin, en tout cas du point de vue du travail, oui.
Et d'un autre, justement à ce niveau-là, forcément... ce qui semble assez évident. Et d'ailleurs, je crois que Emmanuel Grégoire, qui est du PS, le propose aussi à Paris, ce droit de vote pour les étrangers.
Il y a un côté électoraliste.
Voilà, évidemment. Non, ça, c'est l'éléphant qui est au milieu de la pièce. C'est que, non content d'essayer de récupérer les voix de tous les immigrés récents de ces dernières générations, la gauche veut aussi récupérer les voix des immigrés non français, visiblement, qui sont arrivés sur le sol français, pour les rares qui n'auraient pas encore été naturalisés.
Bah, évidemment, et je veux dire, c'est d'autant plus frappant avec la stratégie désormais complètement assumée de LFI dans ces élections municipales, notamment dans un certain nombre de communes d'Île-de-France, de banlieues d'Île-de-France, type La Courneuve, où très clairement, maintenant, ils disent on vise un vote communautariste, même avec un discours racialiste, en disant on a des têtes de liste de telle couleur, on a des habitants de telle couleur, et on vise très clairement des électeurs de telle couleur. Donc, c'est vrai que dans ce contexte, reproposer en plus à quelques semaines des municipales le droit de vote des étrangers extra-européens pour les élections municipales, évidemment qu'il y a une arrière-pensée, en plus de tout le reste, de tout l'historique, parce que il y a toujours de l'idéologie aussi à gauche, mais j'ai envie de dire que là, en plus, maintenant, il y a ce sujet. Alors, sachant qu'il y a un autre argument aussi contre le droit de vote des étrangers, en particulier pour les élections municipales, c'est que ensuite les maires, enfin les élus municipaux, élisent des sénateurs. Donc, influencent directement la loi. Donc, si vous commencez à ouvrir je dirais un vote communautaire qui peut être sensible à des ingérences étrangères, et bien quelque part, vous créez un cheval de Troie d'influences étrangères pour le législateur, après pour des sénateurs.
Bien sûr. Et je voyais aussi une réflexion assez intéressante passer l'autre jour, c'est dans le sens où la citoyenneté, la nationalité, c'est un peu tout ce qui nous reste aussi de préférence nationale d'une certaine façon. Déjà, en termes, on parle très souvent de l'aide médicale d'État, on parle très souvent des avantages qui sont accordés aux étrangers. Le droit de vote, c'est presque un des derniers éléments qui font que c'est encore avantageux d'être français quelque part.
Bah, c'est le principe de la souveraineté nationale. Je vais rappeler l'article 3 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et du référendum. Donc par la voix de ses représentants. D'ailleurs, il n'y a pas de distinction entre représentant local et représentant national. Tout est inclus. Et effectivement, ce qu'il y a derrière idéologiquement dans le projet de la gauche, c'est remettre en cause le principe même de nationalité alors qu'il existe partout ailleurs dans le monde. Hein. Mmh. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que admettons, on ouvre pour les élections municipales le droit de vote, je dis n'importe quoi, des Algériens ou des Maliens, il est évident que derrière, les Français n'auraient pas le droit de vote en Algérie ou au Mali. Voilà. Bon, c'est ce qui est aussi une façon de répondre, parce qu'on nous dit souvent, écoutez, on a ouvert avec Maastricht le droit de vote pour les étrangers municipaux aux ressortissants européens, mais j'ai envie de dire que c'est réciproque.
Oui, voilà. Alors que oui, je crois qu'effectivement le jour n'est pas encore venu où les Français non algériens voteront en Algérie pour les élections algériennes, mais qui sait, on peut rêver. Mais en tout cas, merci beaucoup,
merci
Mathias Renaud, d'avoir été avec nous ce matin, et on vous dit à une prochaine.
À bientôt.